Bonsoir à tous, la suite de notre édition spéciale consacrée à ce feu exceptionnel qui continue de ravager la forêt de Fontainebleau en région parisienne. Incendie qui pourrait avoir une origine volontaire selon le ministre de l'Intérieur qui était sur place ce matin. Un feu exceptionnel par son ampleur, il a déjà parcouru plus de 1000 hectares, 800 pompiers engagés, 4 avions, 2 Canadair, 2 Dash. On va tout de suite faire le point depuis le PC qui est établi du côté de Noisy-sur-École. C'est Antoine Forestier qui est sur place pour BFM TV, avec une mauvaise nouvelle, un nouveau départ de feu.
Oui, ça a été annoncé il y a un peu plus d'une heure désormais. On l'avait constaté sur nos images aériennes cet après-midi. Il y a eu un nouveau départ de feu à quelques kilomètres du premier incendie qui lui s'était déclenché hier à 17h. Évidemment, dès que les pompiers ont été informés ici au niveau du poste de commandement, des moyens ont immédiatement été envoyés afin de circonscrire au plus vite cette partie de l'incendie. En ce qui concerne l'incendie original, celui qui s'est déclenché hier, il n'est toujours pas fixé. C'est ce que nous disait le préfet tout à l'heure. Le dernier bilan officiel parle de plus de 800 hectares, mais c'est un chiffre qui remonte à ce matin. On est certainement largement au-dessus des 1000 hectares désormais si on constate juste la situation sur le terrain avec cette fort épais panache de fumée noire qui continue de s'élever dans le ciel. On le constate ici, on le constate encore beaucoup plus loin. C'est la raison pour laquelle les moyens, des renforts de moyens ont été demandés ici sur place. On parle désormais de plus de 850 pompiers sur le terrain. Il y a également des moyens aériens supplémentaires qui sont en cours, qui sont en train d'arriver dans le ciel de Seine-et-Marne, avec jusqu'à présent 2 Dash, 2 Canadair et des hélicoptères bombardiers d'eau. Il y aura progressivement 2 Canadair en plus qui seront mis en service. C'est beaucoup plus efficace parce qu'ils peuvent aller écoper l'eau dans la Seine juste à côté et faire des rotations toutes les 6 à 10 minutes, alors que les Dash qui eux doivent être rechargés en retardant, eh bien ils doivent aller jusqu'à Angers, ce qui fait qu'il y a des rotations d'une heure et demie. Les deux moyens sont complémentaires, mais évidemment, les Canadairs sont très importants pour lutter contre cet incendie. Et désormais, eh bien, il y aura 6 avions qui vont tenter d'aider les pompiers au sol.
Merci Antoine, avec Gaëtan Malaquin pour les images. Et au moment où vous parliez, on voyait effectivement, on voit en direct ces images de Canadair, de ces deux Canadair engagés. C'est assez impressionnant, Gaël Musquet. Bonsoir, parce que c'est la première fois qu'on voit ainsi des Canadair écoper la Seine. Alors, je sais que c'était prévu dans les scénarios des sapeurs-pompiers, mais là, c'est en vrai, c'est en direct, pour larguer ensuite jusqu'à 6000 litres d'eau toutes les 2 minutes sur la forêt en feu.
Oui, effectivement, ces exercices, ces hommes, ces femmes qui s'entraînent hein, toute l'année, notamment l'hiver dans le sud de la France, ont aujourd'hui l'occasion, malheureusement, de mettre en pratique ce qu'ils ont appris, ce qu'ils ont théorisé. Et on voit l'importance des exercices qui a permis à ces hommes et ces femmes au feu d'être opérationnels dès hier soir. Faut imaginer ces machines, donc d'abord les Dash. Donc les Milan, comme on les appelle dans le nom de code consacré, dès hier soir, qui ont pu faire des largages et ralentir ce feu avec du retardant, qui sont retournés.
Le retardant, c'est cette fameuse poudre rouge. C'est
cette eau rouge en fait, avec des additifs, hein, qui va retarder la progression du feu, qui a retardé la progression du feu, mais ensuite attaquer. Donc ils ont pu le faire juste avant le coucher de soleil aéronautique, retourner sur base dans le sud de la France et revenir ce matin donc avec ces pélicans. Là, pour le coup, les Canadair qui sont en œuvre et qui assument ces chantiers sans avoir besoin d'atterrir. Là, on va avoir posé, ces avions vont lécher en fait littéralement pendant quelques secondes la Seine et pouvoir à la fois stocker cette eau et la larguer en noria. La noria, c'est le principe d'avoir ces avions en continu. 2 pour l'instant, bientôt 4, qui vont lâcher chacun.
Pour l'instant, on a 2 Canadair, 2 Dash. Il y a 2 autres Canadair qui vont
devraient
entrer
rejoindre. Exactement. Donc là, faut imaginer cette eau qui va tomber 6 tonnes à chaque fois, chaque largage, chaque Canadair, donc 24 tonnes. Premier effet, c'est le souffle. Il faut imaginer que la trappe, quand elle s'ouvre, elle va larguer cette eau. Donc, on va avoir un bulbe, comme une virgule, qui va, dans un premier temps, souffler les flammes. Et dans un second temps, l'effet de l'eau, qui est vraiment un fluide magique hein, sur à la fois le rafraîchissement et la capacité d'éteindre. L'évaporation de cette eau qui est larguée va permettre de faire chuter la température des végétaux sur lesquels ils tombent et de limiter à la fois la propagation des flammes et l'inflammabilité de la végétation en amont de ce feu.
Alors, malgré ces moyens engagés, ces grands moyens engagés, on voit que cet incendie continue de se propager avec ce nouveau départ de feu annoncé il y a une heure. Alors, la question de savoir, c'est pourquoi y a-t-il autant de départs de feu ? Sont-ils volontaires ou accidentels ? Ce matin, Paul Conge, bonsoir, le ministre de l'Intérieur laissait entendre qu'il s'agissait d'une origine volontaire. La procureure a également apporté des précisions.
Oui, alors il y a des fortes suspicions que cet incendie est d'origine volontaire, que l'incendie est donc criminel. En revanche, à ce stade, nous dit la procureure de Fontainebleau, il n'est pas possible d'affirmer qu'il y a eu une intervention humaine dans ce feu. Il n'y a pas de suspect identifié, il n'y a pas de mégot, de liquide inflammable à l'origine de l'incendie pour l'heure qui a été récupéré. Mais il y a effectivement des éléments troublants, nous dit la procureure. Ces éléments ont été cités ce matin par Laurent Nunez. Cet incendie, en fait, il a une dizaine de départs. Il y a une dizaine de départs de feu pour cet incendie qui sont circonscrits à un périmètre d'à peu près 1000 mètres. Il y a des départs de feu de part et d'autre de l'autoroute A6 où il y a une forte présence humaine, ce qui laisse à penser que tout ça n'est pas accidentel, que ce n'est pas une coïncidence et qu'il y a effectivement un ou plusieurs auteurs derrière cet incendie. Mais bon, on en est encore au tout début de l'enquête. Les services enquêteurs ont été saisis seulement ce matin, donc il faut rester encore prudent sur l'origine volontaire ou involontaire dans l'incendie.
Alors, en tout cas, ce qui est un peu suspect, en tout cas, qui demande vérification, c'est cette multitude de points de départ de feu, hein, dans un espace assez réduit, en fait.
Oui, c'est ça, le fait qu'il y ait une dizaine de foyers d'incendie. Alors, ils doivent être recomptabilisés, parce que ça peut être 10, ça peut être un petit peu moins, mais qu'il y ait autant de multiples points de départ de feu dans un périmètre aussi restreint, effectivement, ça laisse à penser qu'il y a eu une intervention humaine. Encore une fois, il n'y a pas de preuves au-delà de ce nombre de foyers.
Alors, non. On le sait, malheureusement, la plupart de ces incendies sont d'origine humaine, alors souvent accidentelles, les fameux mégots de cigarettes qu'on laisse au bord des routes, le barbecue. Il y a aussi parfois l'activité agricole qui peut provoquer des incendies. Et puis, il y a aussi les pyromanes, ceux qui volontairement mettent le feu. Alors, la pyromanie, c'est une maladie, mais c'est aussi un crime. Et puis, il y a aussi ceux qui ont intérêt parfois à mettre le feu à de la végétation. On va regarder avec Nargis Hadji. Bonsoir Nargis.
Bonsoir Olivier.
Comment la France sanctionne les auteurs de feux de forêt volontaires ?
Eh bien regardez, j'ai trouvé deux exemples récents. Nous sommes en août 2022 dans le Jura et un ancien pompier volontaire déclenche volontairement un incendie. Plus de 230 hectares de forêt sont ravagés. Alors il reconnaît les faits. Le 18 mars 2025, il est condamné à 2 ans de prison avec sursis, une obligation de soins et il doit indemniser les parties civiles. Le second exemple, nous sommes cette fois en 2015 en forêt au sud du Mans. C'est un ancien pompier volontaire. Cette fois encore, il est reconnu coupable de 9 départs de feu qui ont détruit plusieurs dizaines d'hectares. Sa condamnation a lieu un an après, en novembre 2016, 18 mois de prison ferme. La peine maximale, si aucune personne n'est blessée ou n'est tuée, est de 15 ans de réclusion criminelle et 150 000 euros d'amende. Mais vous l'avez dit, Olivier, encore faut-il eh bien, que les auteurs soient retrouvés.
Alors, justement, comment les enquêteurs sur le terrain recherchent les auteurs ?
Cela se passe en 3 étapes. La toute première, que le feu soit volontaire ou non, eh bien, c'est de localiser le ou les points de départ. Les enquêteurs remontent le chemin laissé par les flammes, que ce soit au sol ou depuis les airs, grâce aux hélicoptères ou encore aux drones. L'étape 2, eh bien, lorsque la zone est balisée, il faut trouver un maximum d'indices matériels. Comment est-ce que ça se passe ? D'abord, grâce à des témoignages, des traces laissées sur place, des chiens, par exemple, sont dressés pour sentir s'il y a des produits accélérateurs d'incendie, de l'huile par exemple ou encore de l'essence. Et enfin, l'étape 3, eh bien, c'est le prélèvement, des prélèvements placés dans des bocaux, direction donc le laboratoire. En France, 9 incendies sur 10 sont d'origine humaine. Dans la majorité des cas, il s'agit d'imprudence, un mégot jeté, vous en parliez tout à l'heure, un barbecue, des travaux agricoles, mais 30% des départs de feu sont liés à des actes de malveillance.
Merci Nargis, ça veut dire Paul Conge qu'en ce moment même, il y a des enquêteurs qui sont sur place, qui tentent de comprendre d'où est parti cet incendie.
Alors probablement qu'ils sont en train d'être dépêchés sur place, ou alors ils ne peuvent pas encore accéder à la zone parce qu'elle est ravagée par l'incendie. Je le disais, les services enquêteurs ont été saisis ce matin. Il est possible que la gendarmerie scientifique qui soit mobilisée, c'est l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie qui très souvent est mobilisé sur ces feux-là et qui a une expertise vraiment en la matière, qui va remonter au point d'éclosion, vous le disiez Nargis, de l'incendie pour essayer de trouver des traces effectivement d'hydrocarbures, de produits accélérants pour l'incendie et essayer de déterminer effectivement la cause humaine ou non de ce feu.
Alors, il n'y a pas que, malheureusement, la forêt de Fontainebleau qui flambe en ce moment même. Il y a d'autres incendies. Il y en a notamment un qui s'est déclenché dans l'Yonne, au nord du département, près de Sens. Et ça provoque des grosses perturbations. Gare de Lyon, comme d'ailleurs hier, Magali Chalet et Gare de Lyon à Paris pour BFM TV. Bon, bonsoir Magali. De nombreux retards TGV constatés.
Oui, avec à chaque instant des retards un peu plus grands. Hein. Tout à l'heure, par exemple, le train en direction de Lyon-Perrache avait 3h10 de retard. Maintenant, ce sont les trains pour Marseille et Nice qui ont 1h40 de retard. Pour Mulhouse, annulé 1h50 pour Perpignan. Alors, si vous rentrez à l'intérieur de la gare, vous pouvez constater qu'il y a énormément de monde assis par terre, des familles entières, les yeux rivés sur les écrans en attendant des informations et en attendant de pouvoir partir. Je vous propose de les écouter. Écoutez au micro de Lucille Martin.
Arrivé il y a une demi-heure et j'ai vu qu'il y avait 50 minutes de retard, apparemment pour des feux qui seraient passés dans une région. C'est bien plus grave finalement que l'attente qu'on a. Voilà, c'est ce qu'il faut se dire aussi.
Le nôtre est 50 minutes de retard pour le moment et on a deux filles avec nous qui partent sur le train d'après qui lui a été supprimé. On peut reprendre un billet, c'est 300 euros de plus pour être classé dans le même train que nous plus tôt. Donc, pour le moment, on cherche une solution.
À l'origine de ces perturbations de trafic, c'est un feu qui a pris à Sens. Du coup, la circulation a été coupée dans les deux sens et les trains sont désormais déroutés sur l'itinéraire classique, l'itinéraire en direction de Verginie. Donc, c'est une voie qui est habituellement utilisée par les TER, qui est donc beaucoup plus lente, d'où ces retards de plus en plus grands.
Merci Magali Chalet avec Lucille Martin, Gare de Lyon. Donc patience si vous devez prendre un train dans les prochaines heures. On va retourner du côté de la forêt de Fontainebleau. On n'a pas encore parlé de tous ces habitants qui ont dû être évacués, environ 900 habitants qui ont dû quitter leur domicile pour fuir les flammes. Nous sommes du côté d'Arbonne-la-Forêt en Seine-et-Marne avec Noémie Vira. Bonsoir Noémie. Des habitants d'Arbonne qui s'inquiètent parce que les fumées se rapprochent.
Exactement, Olivier. Vous voyez toujours cet épais panache de fumée qui s'élève au-dessus du Vaudouais et de Noisy. On est avec Maria et Brigitte qui sont inquiètes de voir ces fumées se rapprocher d'Arbonne-la-Forêt. Et d'autant plus que l'odeur est de plus en plus forte depuis ce matin.
Oui, tout à fait. L'odeur est de plus en plus forte depuis ce matin et surtout cet après-midi. Dès que ça a pris, je pense, sur Fontainebleau, j'ai l'impression que les vents ont ramené l'odeur de fumée sur Arbonne.
Vous m'avez dit, Brigitte, vous voyez, vous habitez là depuis plus de 40 ans, vous n'avez jamais vu ça, ça vous fait peur?
Bah oui, ça fait peur parce que moi, c'est la première fois que je vois ça. Ma belle-mère, c'est pareil, vous avez vu, elle a parlé tout à l'heure et c'est vrai que on voudrait que ça s'arrête parce que c'est dur, dur quand même. Hein.
Et quand vous entendez parler de mégots, de causes humaines, comment vous réagissez toutes les deux par rapport à ça?
Ben, qui devrait pas que, qu'on fume une cigarette, on doit l'éteindre correctement et pas la mettre par la fenêtre.
Tout à fait. Il n'y a pas jeté un mégot par la fenêtre. Ouais. Mais je pense que vu l'ampleur du feu, c'est quelqu'un qui a mis le feu. C'est pas, enfin, des personnes qui ont fait les départs de feu. C'est pas que un mégot, c'est pas possible. Vu l'ampleur, c'est pas possible.
Merci beaucoup à toutes les deux. Effectivement, le feu qui n'est toujours pas fixé et ce qui nourrit donc l'angoisse des habitants ici. On leur souhaite bon courage. On sait qu'ils sont tous attachés à cette forêt de Fontainebleau et ils espèrent bien sûr que les pompiers vont réussir désormais à maîtriser le feu avec le renfort de deux canadairs.
Noémie Vira en direct d'Arbonne-la-Forêt avec Léane Delabrière. Un mot aussi sur les conditions météo, Anthony, parce que forcément la mauvaise nouvelle, c'est qu'il y a toujours ce vent qui attise les flammes. Alors est-ce que on prévoit que ce vent retombe dans la soirée?
Alors, il ne retombera qu'au coucher du soleil. Jusqu'au moment où le soleil, malheureusement, restera, eh bien, on attend des vents à 45, 50, 55 km par heure. Ce qui, malheureusement, ne facilite absolument pas le travail des pompiers. Autre point de surveillance, c'est ce que je regarde actuellement sur les radars. Nous avons des orages qui remontent de la Nouvelle-Aquitaine. Alors, on pourrait dire, effectivement,
une bonne nouvelle.
Sauf que, dans les Côtes d'Armor, tout à l'heure, sur l'incendie du Cap Fréhel, on attendait, justement, des moyens aériens qui ont été paralysés au sol à cause justement des conditions météo. Donc là, si le temps venait à se dégrader, eh bien peut-être que effectivement les moyens aériens seraient malheureusement bloqués. Alors par rapport à demain, eh bien
est-ce que les orages n'ont pas contribué à éteindre les flammes surtout parce que
le problème c'est que l'air avec les orages est extrêmement turbulent, notamment pour les hélicoptères, mais ils ne vont pas forcément donner ces orages beaucoup de pluie, surtout que le sol de Fontainebleau c'est du sable. Donc autant vous dire que la pluie va directement passer, ça ne va pas arranger le travail des pompiers. Demain toutefois le vent devrait se calmer. En revanche, les températures elles resteront caniculaires.
Ouais, que dit justement Météo France pour les jours qui viennent, cette canicule toujours jusqu'à la fin de la semaine?
Au moins jusqu'à effectivement mercredi jeudi sur un plateau chaud, on sortira de la canicule à peu près pour tout le monde sauf pour le sud à partir de vendredi.
Ouais. Parlons effectivement Gaëlle de ce massif forestier très très important qui couvre environ 25 000 hectares qui est situé à 60 km au sud-est de Paris, qui accueille d'ailleurs de nombreux visiteurs, hein, des randonneurs, etc. C'est une zone de pinède avec un sol sableux, pas facile d'accès, disent les pompiers, pas fait forcément pour faire avancer des véhicules. Il y a beaucoup de rochers également qui font aussi la célébrité de cette forêt. Donc c'est vrai que l'intervention est difficile.
Oui, il faut bien imaginer que ces moyens aériens, ils complètent un dispositif au sol qui, effectivement, compte tenu du relief, des différents rochers qu'il peut y avoir, de la nature du sol, de la végétation aussi, cette forêt n'est pas constituée uniquement d'arbres, elle a aussi des fougères, de la bruyère au sol. Et c'est cette bruyère et ces fougères que l'on retrouve aussi dans d'autres forêts en Bretagne et en Normandie, qui s'est beaucoup développée à la faveur des pluies de l'automne et de l'hiver, qui a été complètement, cette végétation a été complètement desséchée avec les trois épisodes caniculaires que l'on a vécu. Et malheureusement, eh ben, c'est cette végétation sèche au sol, plus proche malheureusement des sources de chaleur, c'est elle aujourd'hui qui brûle, c'est elle qui enflamme les arbres et c'est elle aussi qui favorise la propagation de cet incendie. C'est énormément de combustible que l'on a au sol, on le voyait sur les images hier soir. Peu d'arbres en hauteur à proximité de notre duplexeur sur le terrain qui était en feu. Mais en revanche, on voyait très bien ces flammes progresser au sol et enflammer au fur et à mesure ces arbres. Donc ça rend le chantier extrêmement compliqué.
Il y a aussi cette zone qu'on appelle les 25 bosses. C'est-à-dire que c'est une succession de petites collines rocheuses.
Et là, si vous voulez, alors à la fois pour les machines, donc les camions qui auraient pu rentrer, les engins qui auraient pu rentrer, vous savez que l'ONF, l'Office national des forêts, a deux véhicules de patrouille dans cette forêt avec ce qu'on appelle des DFCI, donc des chemins de défense et de lutte contre les incendies. Donc c'est une forêt qui a quand même été aménagée.
C'est une forêt qui est bien entretenue.
Je
me souviens lors des grands incendies dans les Landes, on se plaignait justement du mauvais entretien de cette forêt.
On n'est pas du tout sur le même scénario sur cette forêt-là. On a quand même près de 15 millions de visiteurs, donc faut imaginer les chemins qui ont été aménagés pour permettre à ces personnes d'y évoluer et de profiter de cette végétation. Les conséquences, elles sont pas que sur les arbres, elles sont aussi sur la faune, pardon. Donc des animaux, des mammifères, mais aussi des batraciens, des insectes qui sont eux aussi victimes de ces incendies. C'est moins visible, c'est moins spectaculaire, mais ça pose aussi des problèmes demain. Ça posera des problèmes sur la bonne santé de cette forêt, sur la capacité de cette forêt à nouveau repousser, à se régénérer.
Et puis il y a ce centre équestre qui a dû être évacué. Son propriétaire, Édouard Fiocre, est avec nous, propriétaire des écuries Édouard Fiocre à Achères-la-Forêt, toujours en Seine-et-Marne. Bonsoir, merci d'être avec nous. Alors, vous avez été déjà évacué une première fois avec vos chevaux. Et puis là, de nouveau, il y a une évacuation d'ordonnée, c'est ça ?
Voilà, tout à fait. Donc, on a été évacué en urgence hier soir vers 18h30, parce qu'on est étant juste à côté d'un foyer. C'était assez urgent de déménager les chevaux parce que ça prend effectivement pas mal de temps. Et donc, on a été accueillis par le grand parquet de Fontainebleau très, très gentiment. Et là, malheureusement, il y a de ça une heure et demie, un feu s'est déclaré vraiment tout proche de l'écurie du grand parquet, et auquel cas, on a dû à nouveau déménager les chevaux en urgence, et nous avons à nouveau été accueillis très chaleureusement dans une écurie à Montigny-sur-Loing, aux écuries d'Anthony Chemin.
Combien de chevaux à évacuer ?
Alors moi j'ai une dizaine de chevaux à évacuer, mais sur le site il y avait déjà une centaine de chevaux hier qui ont été évacués parce qu'il y a plusieurs écuries de d'Arbonne, d'Achères-la-Forêt qui ont été évacuées, notamment Arbonne-la-Forêt aussi, Noisy-sur-École. Donc ça faisait un peu plus de 100 chevaux qui étaient accueillis au Grand Parquet hier, et tous ces chevaux-là ont été à nouveau évacués en urgence. Donc là, on rentre dans une complexité de trouver des places dans des écuries en sécurité, sachant qu'on est quasiment tous en lisière de forêt de Fontainebleau. Donc les places commencent à devenir très chères pour les chevaux.
Mais comment vivent ces bêtes, les chevaux? Ils sont pas trop stressés?
Alors, on a de la chance, c'est que c'est des chevaux qui ont quand même globalement l'habitude de voyager. C'est des chevaux qui font beaucoup de compétitions, donc ils ont relativement l'habitude d'être transportés, d'aller dans des écuries pour participer à des compétitions. C'est pas le cas de tous les chevaux, et c'est vrai que dans ces cas-là, ça peut générer un peu de stress. Et puis c'est quand même une sacrée organisation, parce que il fait aussi d'ailleurs très chaud, donc pour eux c'est quand même assez éprouvant, même si ce sont des petits transports. On est obligé de les charger très rapidement, d'être vraiment réactif. Et d'ailleurs, on a tous beaucoup de chance, parce que je crois que vous êtes beaucoup regardé, beaucoup écouté, et c'est vrai qu'il y a plein de personnes des écuries alentours étant en sécurité qui proposent leur aide en venant avec des petits camions, des véhicules pour nous aider à transporter les chevaux et essayer d'aller au plus vite. Mais c'est vrai que c'est pas évident pour les animaux, parce que c'est des chevaux qui normalement n'aiment pas énormément le changement, et surtout quand il fait chaud comme ça.
Mais Edouard, de là vous êtes à Achères-la-Forêt, qu'est-ce que vous voyez, qu'est-ce que vous ressentez
là? Alors,
vous sentez la
là,
fumée?
Je ne suis plus, là du coup je ne suis non, plus à Achères-la-Forêt justement. D'accord. Parce qu'on a été évacué hier pour justement éviter d'être atteint par les flammes. Par chance, les écuries n'ont pas été touchées, pas encore, donc j'espère que ça va tenir comme ça. En revanche, hier, le vent soufflait au contraire de l'écurie, ça passait vraiment sur le côté, donc on n'était pas enfumé. Et ce matin, quand j'y suis repassé pour essayer de voir s'il y avait des dégâts, il y avait quand même une fumée très très épaisse qui planait au-dessus de l'écurie, et c'était, on a senti qu'on était passé vraiment tout proche de la catastrophe.
Et c'est la première fois, j'imagine, que vous vivez un pareil événement.
Oui, évidemment. Moi, je suis natif de Fontainebleau. J'ai 37 ans, et en 37 ans, c'est la première fois que je peux observer ce genre de phénomène. C'est assez incroyable, et ça fait d'ailleurs peur, parce que quelle qu'en soit l'origine, on voit bien que les pompiers ont beau mettre en œuvre tous les moyens possibles, ils sont malheureusement dépassés vu l'ampleur des dégâts.
Merci en tout cas d'avoir été avec nous. On vous souhaite bon courage pour la suite, pour les jours qui viennent, en espérant que le centre équestre ne sera pas pris par les flammes. Dans un instant, on va refaire un nouveau point, bien sûr, sur cet incendie exceptionnel par son ampleur qui continue de se propager. Un nouveau feu a d'ailleurs été constaté, un nouveau départ de feu. 4 avions, 2 Canadair, 2 Dash et 800 pompiers précisément engagés. Plus de 1000 hectares parcourus. On refait un point dans un instant. Ne bougez pas. La suite de notre édition spéciale consacrée à ce feu exceptionnel qui continue de ravager la forêt de Fontainebleau à une soixantaine de kilomètres au sud de Paris. 5% du massif forestier est touché, c'est ce que dit la sécurité civile. Ça représente pas loin de 1000 hectares brûlés, avec des engins et des moyens engagés très importants. Niveau avion, il y a 4 avions, 2 Canadair et 2 Dash. Les hommes et les femmes sur place, ils sont environ 800 pompiers engagés, mais pour le moment, malgré ces grands moyens engagés, eh bien l'incendie continue de se propager. On va bien sûr faire le point dans un instant sur tout ça, mais il y a aussi des conséquences directes, comme ces centres équestres. Il y en a beaucoup dans la forêt de Fontainebleau qui sont évacués, et nous sommes sur l'un des centres équestres de Fontainebleau avec Isor de la Gorce. Vous confirmez, bonsoir Isor, qu'on n'a pas d'autre choix que d'évacuer les chevaux?
Tout à fait, pas d'autre choix que d'évacuer les chevaux, même si on ne sait pas vraiment où les mettre. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure, on était au Grand Parquet, et on constate que au fur et à mesure, tous les centres équestres qui sont sur le chemin des flammes, ou en tout cas qui sont menacés par les flammes, sont évacués. On est ici avec Christelle, vous êtes propriétaire de 2 chevaux, bonjour.
Bonjour.
Vous deviez partir en week-end, vous avez vu que le feu commençait à côté du pré où sont vos chevaux, vous êtes venu directement pour tenter de trouver une solution et les évacuer, c'est ça?
Oui, enfin on est revenu un jour plus tôt pour... en prévention. Les prés n'étaient pas attaqués encore, et là, ils ne sont toujours pas. C'est vraiment de la prévention. Mais vu l'ampleur du feu depuis hier, on a préféré revenir, et on a bien fait.
Oui, parce qu'on voit juste derrière nous ces grands panaches de fumée qui menaçaient les champs. Est-ce que vous vous attendiez à devoir évacuer vos chevaux? Comment vous vous êtes organisé? C'est pas simple de trouver un véhicule pour transporter deux chevaux.
Non, ça c'est sûr. Bah, sincèrement, quand on a vu le feu, on s'est dit qu'on était possiblement impliqués par rapport à nos chevaux. Après, c'est depuis ce matin où vraiment on sent que le vent tourne pour Uri. Et on a commencé depuis ce matin à chercher. Et heureusement, on a une amie qui peut nous prendre avec une amie nos trois chevaux. Et du coup, on va chez elle. Elle vient nous chercher à devant, parce qu'il y a trois chevaux, et on va chez elle.
D'accord, les vents, ce sont les véhicules pour transporter Exactement. Les chevaux. Est-ce que vous avez eu peur pour vos chevaux aujourd'hui?
Pas aujourd'hui, mais je pense que d'ici demain, j'aurais pas bien dormi si je les avais pas déplacés.
Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Vous le voyez, il y a beaucoup de solidarité ici avec des gens d'autres centres équestres de la région qui sont venus récupérer des chevaux, également les militaires qui sont présents sur place pour évacuer ces chevaux qui sont nombreux. Je vous le disais, 150 chevaux dans le centre équestre de Fontainebleau qui ont été évacués, qui sont sortis de ce centre équestre. Pour l'instant, certains, on ne sait pas où les mettre, mais en tout cas, ils ont été sortis de cette zone sensible pour l'instant en prévention.
Merci Isaure, donc à Urti précisément, avec des images signées Chloé Berthaud. On va faire un point complet maintenant sur la situation, sachant que deux canadairs devraient venir en renfort pour tenter d'éteindre, en tout cas de maîtriser dans un premier temps, et de le fixer et ensuite de maîtriser cet incendie. On va faire le point tout de suite depuis le PC Sécurité au poste de contrôle. C'est Antoine Forestier qui est sur place pour BFM TV.
Oui, on vous parle de renforts depuis ce matin. Les pompiers du Var, de la Somme, de la Côte d'Or qui sont venus ici en renfort. Et il y a des nouveaux renforts plutôt originaux à quels on ne s'attendait pas vraiment. Des renforts des pompiers de Disneyland Paris. On en parle avec David Naïd, vous êtes le responsable de ces pompiers. Comment s'est passé votre arrivée ici? Comment vous avez été appelé pour venir ici et prêter main forte aux pompiers?
Alors nous, déjà, nos 220 pompiers qui sont à la protection du parc, on est en relation permanente avec les services de la préfecture et du SDIS 77 avec qui on travaille en commun toute l'année. Plus de 75% de nos effectifs sont aussi sapeurs-pompiers volontaires. Donc on participe tout au long de l'année aux différentes missions. Et évidemment, avec les services de la préfecture, on voulait participer à essayer d'aider le sinistre qui pour nous ici est assez catastrophique, pour l'image de notre département qu'on aime tant, pour nos espaces naturels. Et donc on a mis à disposition un engin pompe incendie avec 6 personnels. Et donc on traite principalement l'arrière ou la défense de points sensibles à la demande du COS. On est complètement à sa disposition et voilà, et on met à disposition nos moyens.
C'est très différent de vos missions habituelles où vous êtes formés comme des pompiers qu'on peut voir tout autour de nous à intervenir sur ce genre de feux de forêt.
Oui, tout à fait. Alors on a toutes les formations incendie, secours à victimes, secours routier, en plus de nos qualifications de prévention incendie. C'est aussi des choses qu'on fait régulièrement. Donc on est formé aussi à toutes ces situations.
Là, vous avez été surpris en vous voyant arriver, en voyant le logo avec Mickey sur vos uniformes. C'est quelque chose qui est déjà arrivé dans le passé ou c'est une première de venir aider sur un incendie d'une telle ampleur?
Alors, il y a de très nombreuses années, on avait notamment collaboré dans le nord de la France sur des inondations importantes, mais jamais sur un sinistre type incendie et notamment un incendie de forêt en Seine-et-Marne.
Vous êtes combien pour l'instant? Est-ce que c'est quelque chose qui va pouvoir augmenter, sachant qu'il y a aussi beaucoup de monde au parc et que votre présence est importante là-bas aussi?
Exactement. C'est pour ça qu'on a aujourd'hui que 6 personnels qui sont engagés, puisque on fait de nombreuses interventions également sur le parc avec notamment la chaleur qui nous touche également. Néanmoins, on va essayer de reconduire ça aujourd'hui, demain, et puis on va libérer aussi du personnel, comme à la demande du ministre de l'Intérieur, pour essayer de libérer nos personnels en fonction de nos possibilités, pour qu'ils viennent rejoindre les centres de secours aux alentours.
Vous venez d'arriver là, vous connaissez déjà votre mission, vous savez précisément ce que vous allez faire dans les prochaines heures?
Donc là, nous, on est arrivé aux environs de 13h, 13h15. On a déjà fait donc deux missions, dont une défense de points sensibles d'une ferme. Et également, nous sommes intervenus en premier intervenant parce qu'on était en transit sur un feu de grange qui commençait à se produire. Et puis là, donc, on vient prendre une autre mission et on va certainement être affecté à une autre mission.
Bon, vous souhaite bon courage et merci à tous pour votre dévouement. Voilà les pompiers de Disneyland Paris qui sont en renfort, comme les pompiers d'un peu partout en France. On le rappelle, 850 pompiers mobilisés pour le moment et 200 viennent de départements autres que la Seine-et-Marne.
Merci Antoine Forestier depuis le PC qui s'est mis en place à Noisy-sur-École en Seine-et-Marne. C'est incroyable quand même, Gaël. On est obligé de faire appel aux pompiers de Disneyland Paris. Ça veut dire que ça montre bien la nécessité de faire venir des renforts. Alors il y a les pompiers, bien sûr, la région parisienne. Il y a aussi des pompiers du Sud qui sont venus et donc ces pompiers de Disneyland.
Oui, c'est un dispositif qui est traditionnel, si vous voulez, dans notre pays. Alors qui peut être activé soit parce que la municipalité municipalités, les municipalités autour de ces industriels, de ces entreprises qui ont des forces de sécurité privées qui peuvent être mises à disposition. Parfois, ces pompiers eux-mêmes, ils le disent, hein, sont des sapeurs-pompiers volontaires. Et donc, libérer ces sapeurs-pompiers volontaires de leurs obligations professionnelles pour pouvoir aider les pompiers locaux, c'est aussi prévu par la loi et encouragé d'ailleurs par le ministre de l'Intérieur. Et encore, c'est tous les aspects de prévention. Vous savez, quand on monte un plan communal de sauvegarde, le maire, il fait l'état des lieux, des forces qu'il a en présence, et ça fait participe à la solidarité sur le territoire. Quand on prépare des jeunes sapeurs-pompiers, les JSP, on prépare déjà des enfants à devenir peut-être demain des sapeurs-pompiers. J'ai des communes, par exemple, qui ont des réserves communales juniors, la commune du Lamantin en Martinique, une réserve communale junior, des enfants de 10 à 18 ans qui sont amenés à signer avec le maire et leurs parents, mais de pouvoir défendre et avoir les bons gestes, les gestes qui sauvent, pour pouvoir être le plus utile possible dans leur quartier respectif. Donc tout ça, ça participe à la cohésion nationale, et ça n'est qu'à encourager encore ce type d'initiative, parce que c'est cette solidarité ce qui permet aussi de tenir dans le temps, d'offrir un hébergement, d'offrir de la nourriture, d'offrir des moyens logistiques qui permettent d'atténuer la charge qui est déjà très lourde sur nos forces de sécurité.
Alors parlons aussi de l'origine de ces départs de feu. Il y en a eu plusieurs, Paul Conche. Oui. Ce matin, le ministre de l'Intérieur a dit que cet incendie pourrait avoir une origine volontaire et le parquet de Fontainebleau a ouvert une enquête.
Absolument. Alors, il y a de fortes suspicions que cet incendie est une origine volontaire, criminelle. Mais pour autant, la procureure de Fontainebleau nous indique que pour l'heure, il n'est pas possible d'affirmer qu'il y a eu une intervention humaine, dans le sens où il n'y a pas encore de suspect identifié, qu'il n'y a pas de mégots, de traces d'hydrocarbures qui permettraient de localiser précisément l'endroit où l'incendie a été pris. En revanche, il y a effectivement des éléments troublants dans l'origine de ce feu qui ont été cités par le ministre de l'Intérieur ce matin. D'après les premières constatations, il y a une dizaine de points de départ de ce feu dans le nord-ouest du massif, et deux de ces foyers sont situés de part et d'autre de l'autoroute A6, qui est très fréquentée par les hommes, et tous ces départs de feu sont situés dans un même périmètre de 1000 mètres, ce qui laisse à penser que, étant donné qu'ils sont tous concentrés au même endroit, ça laisse peu de place au hasard, ça laisse peut-être penser qu'il y a une origine volontaire à ce feu. Pour l'heure, l'enquête ne fait que démarrer. Elle a été confiée au service d'enquête ce matin. Et si auteur il y a, eh bien, les enquêteurs se démêleront pour le trouver.
Sachant qu'un nouveau départ de feu a été annoncé il y a une heure et demie environ, ce qui rend bien sûr l'intervention difficile. Nous sommes aussi avec Simon Porcher, qui est professeur de sciences de gestion à l'Université Paris-Dauphine. Vous avez écrit « Nous sommes faits d'eau » aux éditions Les Corps Conducteurs. Simon Porcher, quelles leçons peut-on déjà tirer de cet incendie ? Il faut préciser quand même que c'est historique. Jamais on avait imaginé voir des canadairs écoper l'eau de la Seine. C'est ce qui se passe en ce moment. On a vu les images spectaculaires. Vous voyez, on voit ces canadairs écoper l'eau de la Seine pour essayer de maîtriser un feu qui se trouve à une soixantaine de kilomètres de Paris.
On a un risque d'incendie, effectivement, qu'on retrouve partout en France. Et ça, c'est quand même assez inédit. Hein. Généralement, on l'a plutôt dans le sud de la France, Provence-Alpes-Côte d'Azur, en Corse, en Occitanie. Mais là, on a absolument tout le territoire qui a un risque de feu. Et ça, c'est lié à trois conditions, hein, qu'on appelle d'ailleurs la règle des 3-30. Il fait plus de 30 degrés. Il y a du vent, donc les braises sont transportées d'un endroit à un autre. Et puis, on a une faible humidité dans l'air, moins de 30% d'humidité. Et je vais ajouter deux conditions qui sont très propres à cette année 2026. Il a beaucoup plu en hiver. On se rappelle qu'on avait des inondations, hein, 40 jours de pluie sans arrêt en janvier et février, ce qui fait que la végétation est maintenant verdoyante, hein, elle a pu se nourrir de l'eau. Et puis en plus, il n'a pas beaucoup plu au printemps. Donc on avait déjà des arbres très secs avant ces trois vagues de chaleur qu'on a connues, ce qui crée évidemment un risque d'incendie extrêmement important sur tout le territoire français.
Mais ça veut dire qu'il va falloir tirer les leçons d'une surveillance généralisée du territoire. A-t-on suffisamment de moyens, à la fois humains, mais aussi en matériel ? Là, on sait qu'il y a deux canadairs et deux Dash qui sont engagés. On annonce aussi le renfort de deux autres bombardiers d'eau canadairs pour tenter de fixer dans un premier temps cet incendie. C'est pas suffisant, ces moyens, va falloir. Alors, il y avait ces fameux deux canadairs qui devaient être commandés, puis la commande a été annulée, parce qu'on a aussi des problèmes de finances publiques. Donc, ça va être compliqué.
On se prépare mieux quand même depuis 2022, hein, qui était une année de sécheresse très importante. une année de sécheresse continue en plus, hein, puisqu'on a vu des sécheresses en 2022 et 2023, et même des sécheresses hivernales. Donc les services sont beaucoup mieux préparés. Par contre, évidemment, on ne sait pas si on peut faire face à des feux qui seraient généralisés partout en France. C'est ça tout l'enjeu aujourd'hui, d'avoir plus de moyens, de mieux s'organiser. Et puis cette saison, cette année, on a eu des feux qui commencent extrêmement tôt. On a un mois d'avance sur la saison des feux de forêt. Et du coup, il y a un risque aussi d'épuisement tout simplement des humains. Donc il y a une question de gestion des ressources humaines qui s'impose. Et puis on ne peut pas vraiment demander de l'aide à nos voisins européens, parce qu'en fait, on est parmi les meilleurs en matière de gestion des feux.
Surtout, il y a des incendies européen. En Espagne, incendies meurtriers, hein, avec une Française d'ailleurs qu'on a retrouvée morte aujourd'hui. Regardez ces images de fumée très impressionnantes, hein. C'est des images en direct. L'image vient de se figer de la région de Fontainebleau. Ça montre aussi l'ampleur de ce qui reste à faire pour fixer cet incendie.
Oui, tout ça, de ce qui brûle déjà. Ce qui brûle déjà. Très sombre, donc feu intense.
Regardez, avec l'intervention
d'un hélicoptère avec un Bambi Bucket, qui est en fait la nacelle, hein, qu'il a dessous, qui peut contenir jusqu'à 1 tonne d'eau, 1000 litres.
1 tonne d'eau, là.
Voilà, on peut avoir quelques centaines à avoir 1000 litres dans ces paniers.
Alors, l'avantage, la Seine est à côté.
Exactement, la Seine, une piscine. On peut charger en fait ce panier en fait en eau de n'importe quel point d'eau à proximité et larguer précisément.
Là, il vient de le poser. Alors, on va le récupérer. Alors,
soit de la maintenance, soit ici. Oui. Là, il va se poser carrément. Donc, je sais pas pourquoi, mais en gros, sur ces moyens supplémentaires, faut savoir que l'avantage de l'hélicoptère, c'est qu'il va pouvoir larguer cette eau-là vraiment précisément sur un foyer. Et en général, faut avoir en tête que cette eau qui va tomber, le premier effet attendu, c'est le souffle. Donc, c'est vraiment que cette eau, elle souffle la flamme et qu'ensuite, l'eau, par ses caractéristiques physiques, refroidissent évidemment la zone qui est en train de brûler et qu'elle diminue aussi l'inflammabilité de la végétation autour et qu'on évite évidemment qu'on ralentisse la propagation de ces feux. Et là, effectivement, la couleur du panache de fumée, la quantité de fumée témoigne de l'intensité du feu et du travail effectivement qui reste à accomplir avec ces moyens aéroportés mais aussi au sol, hein. Tous les moyens aujourd'hui mobilisés permettent derrière de traiter ces incendies.
On va retrouver au PC sécurité, au poste de contrôle à Noisy-sur-École en Seine-et-Marne, l'ancien maire de Fontainebleau, l'ancien ministre de la Santé, aujourd'hui député, Frédéric Valletoux. Merci d'être avec nous quelques minutes, monsieur Valletoux. J'imagine que ce qui se passe sur place, vous ne l'avez jamais vécu. Est-ce que c'était un scénario possible ?
D'abord, c'est un spectacle de désolation et effectivement, ça fait une vingtaine d'années que je suis élu ici à Fontainebleau et je n'avais jamais vu ça. Les feux les plus importants que nous avions jusqu'à présent, c'était 4, 5, parfois 6, 7 hectares. Là, on va être ce soir sans doute à 1000 hectares qui sont partis en fumée, c'est-à-dire, comme on l'a rappelé depuis ce matin, c'est 5% de la surface de la forêt de Fontainebleau qui partira en fumée. Donc oui, c'est un scénario noir qu'on n'avait pas vraiment en tête parce que l'ampleur était loin de voilà, on était loin d'imaginer ça. Il faut savoir que Fontainebleau, c'est une forêt qui est le site naturel le plus fréquenté de France. 17 millions de visiteurs par an et qui est une forêt avec beaucoup de chemins, de sentiers. D'ailleurs, qui permet souvent aux pompiers d'aller assez rapidement au cœur du massif. Mais là, les feux sont partis très vite et puis la multiplication des foyers de départ de feu font qu'on arrive à quelque chose qui est hors norme.
C'est aussi une zone de pinède, donc on sait que les pins, c'est d'ailleurs comme dans le sud de la France, ça brûle vite.
Oui, il y a des pins, c'est historiquement une forêt de chêne, mais néanmoins, effectivement, l'évolution de la nature fait que les pins colonisent beaucoup de parcelles ici à Fontainebleau. Donc, c'est des arbres mêlés et elle est pas, il n'y a pas l'uniformité des grandes forêts du sud. Mais c'est une forêt qui est très, que je le disais, très fréquentée, sur laquelle il y a un attachement qui est évidemment très fort et qui provoque ce traumatisme. On a aujourd'hui beaucoup de réactions de personnes qui connaissent cette forêt, qui l'aiment, qui l'apprécient. Le massif des Trois Pignons, qui est un des massifs de cette forêt de Fontainebleau, est très connu parce que c'est un haut lieu de l'escalade, hein. Fontainebleau, c'est la Mecque de l'escalade de blocs. On a des touristes qui viennent des quatre coins du monde pour s'entraîner sur les grès, sur les blocs de Fontainebleau. C'est justement le coin qui est en train de brûler. C'est un vrai traumatisme pour beaucoup de monde.
Frédéric Valtou, on parle d'une origine volontaire. En tout cas, c'est ce que dit le ministre de l'Intérieur. La procureure dit que pour le moment, il y a des éléments troublants, même si elle reste prudente. Comment ça vous fait réagir? Alors, si c'est criminel, il faut retrouver les criminels qui ont fait ça, ensuite les sanctionner. Ça veut dire que aujourd'hui, il faut faire à la fois de la prévention, mais aussi peut-être plus de répression.
Effectivement, les pompiers, les spécialistes des feux de forêt ont des indices qui sont concordants, on va dire, et qui montrent que la multiplicité, la multiplication des départs de feu, la manière dont ils sont positionnés, la relance de certains feux par de nouveaux foyers ou de nouveaux foyers tout court. Il y a 2h30 à 1h à 1,5 km pardon de Fontainebleau, un nouveau foyer est apparu qui nous a obligés en catastrophe à déplacer 150 chevaux qui avaient été accueillis la veille hier soir pour les protéger des haras qui étaient en première ligne. Il a fallu qu'on les déménage à nouveau, ce qui est pas simple de déménager 150 chevaux qui sentent l'ambiance, qui sentent le stress, qui sentent les fumées. Il a fallu les déplacer à nouveau parce que ce nouveau foyer arrivait. Et donc, tout cela montre que, tout cela donne l'impression que c'est l'homme qui provoque ces feux-là, ou alors il faudrait qu'on soit vraiment, qu'on ait vraiment une sacrée malchance pour avoir de manière totalement involontaire et j'allais dire manière totalement involontaire cette multiplication de foyers d'incendie.
Donc on a affaire à des pyromanes.
J'en sais absolument rien et je pense que les services d'enquête ont encore du mal à aller sur les foyers de départ puisque il y a encore 500 hommes ici qui combattent le feu et donc tous les foyers de départ sont pas encore accessibles. Donc ça c'est les services d'enquête qui le diront. Mais en tous les cas, c'est vrai que la multiplication des incidents est troublante. Il faut rappeler que la semaine dernière, même si c'était des feux de moindre ampleur, il y a eu du côté de Barbizon, qui est encore un autre coin de la forêt, dans les gorges d'Apremont, deux départs de feu à 48 heures, qui déjà étaient troublants dans la manière dont ils avaient été lancés. Donc c'est vrai qu'on fait face à une série noire. Alors est-ce que c'est le pur hasard? J'y crois pas trop. Est-ce que c'est la main de l'homme? Sans doute. Mais ça, c'est l'enquête qui le dira.
Merci Monsieur Valtou, merci d'avoir été quelques minutes en direct avec nous, l'ancien maire de Fontainebleau depuis le PC. Nous sommes rejoints par le commandant Septi Kadimala qui est officier de sapeurs-pompiers, porte-parole de la sécurité civile. Un mot sur l'origine volontaire de ces incendies avec ces départs de feu à différents endroits, c'est quand même très suspect.
Très concrètement, et Monsieur Valtou l'a vraiment bien exprimé, en fait, à partir du moment où on a plusieurs départs de feu qui partent dans des endroits un peu différents de l'espace forestier qui est la Fontainebleau, nous laisse penser que forcément il y a potentiellement une action humaine derrière tout ça, tout en sachant que 9 feux de forêt sur 10 sont provoqués par l'humain de manière majoritairement accidentelle. Mais là, évidemment, dans notre raisonnement et dans la réflexion qui est menée, et l'enquête nous le dira à terme, parce que il y aura évidemment une enquête qui va être mise en œuvre, une recherche qui sera approfondie pour connaître les causes et les circonstances de cet incendie.
Mais pardon, mais c'est visiblement ça continue, puisqu'il y a eu un nouveau départ de feu il y a 2h30 maintenant.
Oui, et il y en a eu.
S'il y a une personne qui agit ou plusieurs personnes, il faut réussir à mettre un terme à tout ça.
Et c'est d'ailleurs l'objectif de la gendarmerie. Je crois savoir que les forces de sécurité intérieure sont actuellement à pied d'œuvre pour justement, on a aussi des drones qui recherchent aussi des potentielles personnes qui pourraient être en forêt. Il y a un sujet par rapport à ça. Ce que je peux vous dire, c'est qu'en effet, c'était votre question. Plusieurs départs de feu dans une zone restreinte nous laissent évidemment penser que ça peut être d'une origine plus criminelle qu'accidentelle, mais c'est surtout l'enquête qui nous le dira.
Ouais, parce qu'au départ, on pensait que c'était parti peut-être de l'autoroute A6, d'un mégot de cigarette.
Est-ce que c'est possible aussi? En fait, il faut bien prendre en compte que c'est aussi possible d'avoir plusieurs foyers distincts, et puis notamment aux abords d'une autoroute. Ça peut arriver, ça peut être énormément de sujets. Là, en l'occurrence, les éléments sont quand même concordants pour nous laisser penser qu'il y a une potentielle action humaine qui pourrait être à l'origine de ça. Mais encore une fois, c'est vraiment l'enquête qui va pouvoir pousser l'investigation et nous amener à consolider cette hypothèse.
Alors, Frédéric Valtou parlait de ce massif forestier qui est prisé des fans et des ceux qui sont des professionnels de l'escalade. C'est connu dans le monde entier. Il y a 15 à 17 millions de visiteurs. Beaucoup viennent faire de l'escalade, et c'est le cas notamment de Jérôme Chapuis, qui est avec nous, qui est un grimpeur et qui, depuis plus de 30 ans, grimpe à Fontainebleau. Merci Jérôme d'être avec nous. J'imagine que vous êtes très triste de voir ce qui se passe en ce moment dans cette forêt que vous connaissez bien.
Oui, bonjour mesdames et messieurs. Oui, en effet, c'est comme disait M. Valtou tout à l'heure, c'est une première de voir un incendie aussi important. 800 hectares ou 1000 hectares, c'est vraiment assez dingue et nous avons tous peur de voir comment nous allons retrouver la forêt après cet événement, quoi.
Vous avez un club qui donne des cours d'escalade dans cette forêt. Comment était la forêt là ces derniers jours, ces dernières semaines? C'était très sec.
Oui, c'est vrai que ça fait 3 semaines que c'était vraiment très sec. Je pense qu'il n'y avait pas eu une goutte d'eau, plus la chaleur. Notamment, il y avait eu notamment un arrêté préfectoral qui interdisait la fréquentation de la forêt de Trois-Pignons parce que c'était vraiment très sec et donc il y avait un risque d'incendie important. Et c'est des choses qui arrivent. Enfin, de la sécheresse en été, c'est des choses qui arrivent souvent, mais là quand même 3 à 4 semaines d'affilée, c'était assez exceptionnel, je pense.
Il y avait des zones qui étaient fermées au public à cause de ce risque incendie.
Oui. Oui, oui, il y avait un arrêté préfectoral qui avait fermé la zone des Trois-Pignons, donc qui était la zone où il y a eu le feu principal là, à côté de la Chère, Boiron, autour de l'autoroute. Donc ouais, cette zone était fermée jusqu'au 12 juillet. Si je me trompe pas, ou 17 juillet, si je me trompe pas. Et bon, voilà, le but, c'est de protéger la population et d'éviter que des gens puissent mettre le feu de manière accidentelle. Mais
est-ce qu'il y a des gens qui vivent dans cette forêt, des sans domicile fixe?
Non, ça peut être vraiment extrêmement sporadique. Ça peut arriver, hein, mais c'est déjà premièrement c'est interdit, et ça peut arriver, mais c'est très très rare. Voilà.
Parce qu'il faut rappeler quand même que c'est une forêt très étendue. Hein, c'est 25 000 hectares hein, cette forêt, la forêt de Fontainebleau. C'est impressionnant.
Exactement.
Pour l'instant, c'est 5% de cette forêt, de ce massif forestier qui a été touché par les flammes.
Oui, en effet, 5%, c'est déjà énorme à notre point de vue parce que 25 000 hectares, c'est à peu près 30 km sur 30 km. Donc, ça va faire une bande de 8 km. Ça semble assez impressionnant. On a du mal pour l'instant à se rendre compte de l'étendue des dégâts. On imagine seulement, mais c'est assez difficile pour nous, vu qu'on l'avait jamais vu avant, d'imaginer ce qui est parti en fumée et ce que ça va donner en termes de paysage. En termes d'efforts pour replanter, etc.
Alors j'imagine pour vous c'est une catastrophe économique parce que ça doit être la haute saison, donc tout est annulé pour le moment.
Oui, c'est vrai que à cette catastrophe un peu du cœur, en fait, on va rajouter une difficulté économique pour tous les professionnels. On va parler des centres équestres, on va parler des gîtes, on va parler bien sûr des professionnels d'escalade qui encadrent des personnes toute l'année, et enfin surtout en ce moment. Et en effet, c'est à peine saison. Moi, pour ma part, j'avais un stage qui commençait ce matin, et on l'a annulé en catastrophe hier parce que bah voilà, on n'avait pas trop d'informations, mais on préférait faire attention. Et aujourd'hui, voilà, c'est très très inquiétant. Et c'est sûr que beaucoup d'entreprises risquent de la zone vont en souffrir maintenant, mais certainement dans les mois à venir aussi.
Merci Jérôme, merci d'avoir été avec nous quelques minutes. Bon courage à vous le grimpeur qui connaissait depuis plus de 30 ans cette forêt de Fontainebleau. Pourquoi c'est si compliqué de fixer cet incendie? Quelles sont les contraintes, commandant?
Alors les contraintes, elles sont assez multiples. Premièrement, déjà l'accès des secours. Il faut quand même s'engager dans une forêt qui est quand même assez complexe, même si l'accès des engins, notamment à Fontainebleau, est assez facilité et entretenu par les services qui s'occupent de cette forêt. Il y a évidemment aussi...
C'est une forêt qui est bien entretenue, parce que c'est pas toujours le cas.
Ah non, clairement, Fontainebleau est une forêt qui est très, très bien entretenue. C'est le poumon vert un petit peu de l'Île-de-France, hein, mine de rien, et puis c'est un grand espace. Le second élément, c'est aussi les conditions astrométéorologiques. Encore une fois, je le rappelle, on sort d'une canicule, l'air reste assez sec, on est en plus sur des sols qui restent secs factuellement, et en plus de ça, on a malheureusement aussi un vent qui était de mémoire à 35 km/h, si je ne me trompe pas, et qui a encore favorisé cette propagation du feu, malgré le fait que rapidement, et ça franchement on peut le dire, hein, on a mis une importante force de frappe sur ce feu, avec quasiment plus de 10 aéronefs ou moyens aériens, autant pour moi, des moyens aériens, hélicoptères et avions qui sont montés de Nîmes pour aller taper ce feu-là, avec un traitement et une volonté de fixer rapidement ce feu et surtout de protéger la population.
Il y a 2 autres Canadair qui arrivent en renfort.
Exactement, pour 4 Canadair, et c'est inédit, hein, pour tout sapeur-pompier de France, c'est un peu comme quand on disait le jour où les poules auront des dents, quoi. C'est concrètement avoir des Canadair au-dessus de Fontainebleau, c'est inédit. On n'a jamais vu.
Les Canadair quand même écopé la Seine,
exactement.
C'est aussi quand même,
c'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé sur des exercices, etc.
Oui,
mais maintenant,
des exercices, mais en temps.
Sur un combat au feu en zone Île-de-France, d'avoir des Canadair, c'est inédit. On avait déjà envoyé des Canadair un petit peu plus en haut dans le nord de la France, mais là, en l'occurrence, ça reste marquant et c'est un excellent indicateur de ce que c'est sait que maintenant, nos saisons feux de forêt, la précocité et l'intensité, je vous rappelle quand même qu'on est à plus de 35 000 hectares maintenant atteints.
Oui, c'est... depuis le début de l'année, c'est le 32 000 exactement, c'est le chiffre qui a été donné 32 000, par le ministre de l'Intérieur. Exactement. 32 000 hectares partis en fumée depuis le début de l'année.
Et sur ces... Laurent Nunez. Exactement, et sur 32 000 hectares, si on compare avec 2025, on est déjà quasiment sur la surface brûlée de 2025. C'est juste pour vous donner un indicateur.
Vous parliez du vent, Pénélope Hérault, le vent qui est toujours présent, ça c'est une mauvaise nouvelle. Il va peut-être se calmer à la nuit tombée.
Oui, mauvaise nouvelle, hein. Le vent continue de souffler donc autour des 40 voire 50 km/h. La bonne nouvelle, si je puis dire, c'est que l'on attend des orages, notamment en fin de journée, donc autour de 19h-20h.
Il pourrait pleuvoir sur Fontainebleau et la forêt.
Il pourrait, parce que c'est difficile en fait d'anticiper, de prévoir les orages. En tout cas, ça serait effectivement une bonne nouvelle avec des pluies salvatrices, on l'espère. Et puis demain, le vent pourrait également baisser en intensité autour des 20-30 km/h. Là encore, une bonne nouvelle. En tout cas, en tout état de cause, là, les conditions météorologiques ne sont pas réunies pour faire en sorte que ce risque d'incendie faiblisse.
Parce que la chaleur se maintenir jusqu'à la fin de la semaine.
Effectivement, parce que chaleur, parce qu'on l'a dit aussi tout à l'heure, la sécheresse des sols. Tout cela, en fait, on a parlé également de la règle des 3-30, crée des conditions finalement assez défavorables. Et je voudrais aussi souligner un point important, c'est qu'effectivement, c'est inédit. Bien sûr, il y a beaucoup d'émotions, c'est très triste. Toutefois, ça fait quand même plusieurs années que les scientifiques du climat alertent de cette situation. Actuellement, on a quand même 59 départements en vigilance orange pour alerte incendie. La plupart d'entre eux sont centrés sur justement les régions du Nord. Donc on voit bien que ce risque d'incendie, finalement, il remonte vers le Nord. Il n'est plus concentré sur le pourtour méditerranéen, c'est un risque national.
Pendant qu'on parle, ces images en direct de nouveau d'un hélicoptère là, qui intervient, ouais. qui va donc larguer de l'eau. C'est une tonne d'eau, c'est ça dans...
Sur un bambi bucket, quelques centaines de litres à une tonne.
Ça peut même monter un petit peu. On a les hélicoptères tchèques qui sont venus nous renforcer. On était sur 3450 litres. Et c'est vraiment garder à l'esprit qu'on parle souvent des Canadairs qui font un travail formidable. Ces pilotes-là sont vraiment incroyables. C'est souvent des anciens pilotes de chasse qui sont éprouvés à cette aéronautique un peu complexe. Mais ce qu'il faut garder à l'esprit ici, c'est que ces hélicoptères ont d'autres missions. C'est une attaque beaucoup plus chirurgicale, avec une volonté vraiment stratégique d'atteindre un flanc ou de l'affaiblir en termes d'intensité du foyer. Et c'est vraiment ce balai aérien avec et à la fois ces Canadairs et les Dash, on n'en parle peut-être pas assez, mais les Dash qui ont une action considérable avec cette pose de retardant, qui vont aussi pouvoir potentiellement ralentir la propagation du feu.
Mais qui coordonne tout ça?
Toujours le commandant des opérations de secours. Un officier de sapeurs-pompiers qui va prendre le commandement sur l'opération, sur le terrain, et qui lui va, bien évidemment, après, en faisant des demandes à l'échelon national, on a un centre opérationnel de gestion interministérielle de crise, avec aussi des centres opérationnels zonaux, qui vont pouvoir donner et satisfaire les demandes de renfort, notamment sur les moyens nationaux. Mais c'est toujours le commandant des opérations de secours, avec sa lecture fine du terrain, son tour du feu, qui va analyser et demander les moyens associés pour pouvoir le faire. Et tout ça, sous le pilotage du préfet, qui est le directeur des opérations de secours. D'abord, dans un premier temps, c'est le maire. Et puis, lorsque le feu prend une ampleur beaucoup trop significative, ce sera le préfet qui prendra le directorat des opérations de secours et qui pourra aussi, bien évidemment, motiver des demandes de moyens nationaux, voire européennes.
Alors, on va retourner sur le terrain avec nos équipes, qui, vous l'avez bien compris, sont déployées un peu partout dans cette forêt, autour de la forêt. On parlait des habitations qui ont été évacuées, mais il y a aussi ces centres équestres. Il y en a beaucoup aux abords de la forêt de Fontainebleau. On retrouve Élise Philips, qui est du côté de Uri, en Seine-et-Marne, avec un centre équestre évacué ou en cours d'évacuation.
Exactement, on est dans un centre équestre avec Valentine Rib qui est en train d'évacuer, on vient juste d'arriver, on a vu un petit peu de scène de panique parce qu'on nous a expliqué que le feu était en train d'arriver. On est justement avec Élise qui travaille sur ce centre équestre. Racontez-nous un petit peu ce qui est en train de se passer, pourquoi vous avez dû évacuer si précipitamment?
Parce que le feu est beaucoup trop près, tout simplement. On a aussi évacué des chevaux la nuit dernière entre le Vaudoué et on en a mis chez nous aux écuries de Villiers-sous-Grès.
Voilà. Comment c'est en train de se passer là? Vous avez réussi à évacuer tous les chevaux? Est-ce que vous savez?
Nantes-sur-Lunain, qui est un endroit où il n'y a pas trop de forêt à côté, justement. Et puis là, nous, nos chevaux à Villiers-sous-Grès, on ne sait pas si le feu va aller jusqu'à nous et si on ne va pas devoir évacuer d'autres chevaux. Avec d'autres chevaux qui ont déjà été évacués. Bon, bref, c'est le bazar.
On sent un petit peu l'odeur de brûlé dans l'air. On a vu un petit peu que c'était la panique tout à l'heure. Comment vous vous sentez?
Bah, on fait ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut, on tient, et puis voilà. Et il ne faut pas rester trop longtemps parce que ça fait très mal au bout d'un moment.
Effectivement. Merci beaucoup à vous. Et puis on a croisé une jeune fille à l'instant qui a dû partir, mais elle nous a expliqué qu'elle avait vu des annonces sur les réseaux sociaux et qu'elle était venue ici pour aider les habitants à évacuer ces lieux. On voit encore ces habitants, ces camions, ces chevaux qui sont en train d'être évacués. Une grande partie sont déjà partis parce qu'on ne s'en rend pas forcément compte maintenant, mais à l'écran, mais on sent cette odeur de brûlé dans l'air. Et effectivement, le feu est en train d'arriver juste de l'autre côté. Et donc, c'est pour ça que c'est très dangereux. Il ne faut absolument pas rester ici. C'est pour ça que tous ces lieux dans le périmètre sont en train d'être évacués.
Merci Élise Philips avec des images signées Valentine Ribes. La difficulté est aussi de trouver de la place de libre parce que ces 100 équestres, il y en a une bonne dizaine, il faut les évacuer, il faut pouvoir mettre les chevaux quelque part. La difficulté également de dire aux habitants de quitter leur domicile. On entend certains dans nos reportages dire bah non, moi je reste chez moi parce que je vais essayer de sauver ce qu'il y a, je veux pas partir de ma maison.
C'est toujours très difficile de quitter sa maison. Clairement, on peut pas. Il faut les comprendre. Hein. Dès qu'on vient à 4h du matin pour vous dire, écoutez, vous quittez, vous prenez vos affaires et vous sortez parce qu'il y a le feu, ça peut être compliqué à négocier. Surtout qu'en général, quand on arrive, il n'y a pas de fumée, pas de flamme avant, puisque c'est un travail d'anticipation.
On ne voit pas forcément le danger.
Bien évidemment, mais ça, le but, c'est de le faire suffisamment en amont pour pouvoir à la fois canaliser ce flux de personnes. Je rappelle certaines consignes de sécurité. Quand on quitte son habitat, on ferme les volets, on ferme les portes, on coupe le gaz et l'électricité, on essaye de couper tout ce qui est vecteur de ventilation au sein de la maison, et surtout, on suit les instructions des autorités. Ça veut dire que si on nous dit d'évacuer sur tel chemin, on ne va pas l'opposer, on évite de s'engager là où il y a de la fumée ou des flammes, parce qu'être dans une voiture et traverser une route alors qu'il y a le feu sur les pourtours, ça peut être un risque de mortalité effective et réelle.
Ouais. Et parfois, est-ce qu'il ne faut pas mieux rester chez soi ? On est peut-être mieux protégé à l'intérieur que si on part comme ça, sans savoir où on va, entouré de flammes.
Finalement, ça fait lien avec votre dernière question sur le commandant des opérations de secours. Dans son analyse stratégique, lui, il va faire le tour du feu, il va identifier si on doit ou confiner ou évacuer les habitants. Il n'y a jamais de règles, et c'est toujours le terrain qui commande. Aucun livre ne vous dira strictement sensu ce qu'il faut faire, puisque c'est vraiment l'analyse du commandant des opérations de secours qui dira soit on évacue, soit finalement là, on peut confiner, et les gens devront rester chez eux.
Alors, on disait tout à l'heure, il n'y a pas que l'incendie qui ravage la forêt de Fontainebleau en ce moment. Il y en a d'autres, et notamment, il y a un incendie près de Sens, dans l'Yonne. C'est au nord du département de cette région Bourgogne. Et cet incendie a des conséquences sur le trafic TGV entre Paris et Lyon. Confirmation sur place, Paris, à la gare de Lyon, avec Magali Chalet. Bonsoir Magali, avec toujours ces perturbations, donc.
Bonsoir. Oui, avec de plus en plus de trains qui sont impactés. À titre d'exemple, Montpellier, 2 heures de retard. Marseille et Nice, 1h40. Perpignan, c'est 1h50. Et un peu plus tôt, un train en direction de Lyon-Perrache a eu carrément 3h10 de retard. Alors, à l'intérieur de la gare, il fait très chaud. Il y a énormément de monde. Des familles entières assises par terre en train de regarder les tableaux d'affichage. Je vous propose d'écouter les voyageurs que nous avons rencontrés avec Lucille Martin.
Le train a 25 minutes de retard au départ et il va avoir 1h10 parce que ça va aller plus lentement à cause des incendies.
Je vais prévoir un petit truc à manger quand même, parce qu'on ne sait jamais. Si j'ai 2-3 heures d'arrêt dans le train, je préfère avoir quelque chose à manger. Et puis sinon, j'ai à boire, un peu de musique et tout ira bien. Ça n'a rien de s'énerver, ça ne fera pas venir le train plus vite.
À l'origine de ce feu, à l'origine de ces retards, un feu à Sens dans l'Yonne. Du coup, la circulation est bloquée dans les deux sens et les trains vont devoir désormais circuler sur la voie classique, la voie des TER en direction de Vergynie. C'est pourquoi les trains mettent beaucoup plus de temps à arriver à leur destination et qu'il y a beaucoup plus de retard.
Merci Magali Chalet avec Lucille Martin. Alors, ça fait 2 jours de suite que le trafic est perturbé à Gare de Lyon. Hier, c'était à cause des incendies dans la forêt de Fontainebleau. Aujourd'hui, c'est cet incendie dans Lyon qui perturbe le trafic. On voit aussi toutes les conséquences des feux. Ça ne touche pas seulement la végétation, mais ça perturbe finalement tout un écosystème.
Oui, ça a des impacts humains déjà, puisqu'il peut y avoir des personnes mortes ou blessées. Et il y a des coûts psychologiques, évidemment, à devoir être évacué en urgence pour éviter d'avoir sa maison brûlée. Il y a des coûts environnementaux, des arbres qui meurent, des animaux qui sont touchés, des insectes. Et donc, ça va prendre des années quand même pour retrouver une forêt qui est aussi resplendissante qu'elle n'a pu l'être avant un feu. Et puis, ne pas oublier aussi que les arbres sont en plus nos meilleurs alliés dans la lutte contre le réchauffement climatique. Donc là, on produit du CO2 avec la fumée. Et puis, on n'a plus des forêts qui peuvent absorber du CO2. Donc ça a vraiment un impact aussi important sur l'environnement. Et puis enfin, il y a des impacts économiques. Et donc les retards de train, ça fait partie des impacts économiques. Des gens qui arrivent en retard, des gens qui ne peuvent plus aller travailler ou des activités économiques qui sont touchées par le feu. On parlait du tourisme tout à l'heure, mais on peut penser aussi aux agriculteurs aussi qui souvent sont touchés par les feux de forêt.
Oui, et puis c'est un week-end avec beaucoup de trafic, week-end du 14 juillet, les gens bougent, voyagent et ça complique tout. Et hier, rappelons que l'autoroute A6 était coupée, l'autoroute A5 également, Gaël.
Oui, tout à fait, les gestionnaires de réseau sont fortement impactés. On a un coût aussi sur la santé mentale des populations, c'est pas qui sont évacués, qui ont perdu tout ou partie de leur champ.
Heureusement, pour l'instant, il n'y a pas de victimes.
Tout à fait.
Un sapeur-pompier est décédé en luttant contre le feu la semaine dernière.
Je parlais de cet incendie de Fontainebleau. Mais effectivement, le meilleur service qu'on puisse rendre justement à ces pompiers qui sont engagés, c'est de ne pas les faire intervenir et donc de ne pas déclencher accidentellement ou volontairement ces feux. C'est très important d'avoir cette santé mentale en tête parce que ce sont des coûts a posteriori qui sont pas forcément toujours évalués et on oublie toujours les coûts évités grâce à la prévention. C'est rarement comptabilisé qu'on a évité de dépenser 1 million, 10 millions, 100 millions d'euros sur ce type de crise. Là, il faut vraiment mettre au crédit des associations qui sont sur le terrain, du GREC, le groupe régional d'experts pour le climat qui travaille sur ces sujets, qui accompagne les politiques publiques, les collectivités, la ville de Paris, la région Île-de-France sur ces questions depuis de nombreuses années, qui tire la sonnette d'alarme, qui accompagne aussi les sapeurs-pompiers. Alors, j'ai pas la connaissance de toutes les casernes et de tous les SDIS, les services d'incendie d'Île-de-France, mais en tout cas au crédit de celui de l'Essonne, on a une très forte activité sur les nouvelles technologies. Une très bonne école, l'ENSOS, par Aix-en-Provence et l'Entente de Valabre, qui historiquement travaille sur ces nouvelles technologies grâce au pont, sur l'introduction des drones, le pilotage et la coordination des moyens qui vont être engagés au sol, dans les airs. Tout ça, si vous voulez, ça a un coût, c'est vrai. Parfois, il y a eu des réductions de budget, c'est vrai. Mais ce qu'il faut jamais, jamais oublier, c'est que cet argent que l'on investit dans les SDIS, dans les réserves communales, ce sont des centaines de milliers, des millions d'euros que l'on n'a pas à dépenser aujourd'hui et qu'on n'aura pas à dépenser demain si on renforce les services scientifiques, techniques du ministère de l'Écologie, du ministère de l'Intérieur pour faire face à ce type d'incident.
Si vous nous rejoignez à l'instant, il est bientôt 18h, nous sommes en édition spéciale consacrée à ce feu exceptionnel qui continue de ravager une partie de la forêt de Fontainebleau. 5% du massif a été brûlé selon les autorités, un incendie qui pourrait avoir une origine volontaire. Pour le moment, ce sont des moyens importants qui sont engagés. On parle de 850 pompiers engagés sur le terrain, 4 avions, 2 Canadair, 2 Dash, 2 autres Canadair arrivent en renfort. Un incendie qui a déjà parcouru plus de 1000 hectares. On va justement faire le point sur l'origine volontaire ou pas de cet incendie avec vous, Boris Karlamov, parce que on a entendu tout d'abord le ministre de l'Intérieur nous dire ce matin, Laurent Nunez, que selon lui, il y avait sans doute une cause volontaire, donc une intervention humaine, peut-être criminelle. Et puis la procureure a également pris la parole parce que le parquet de Fontainebleau a ouvert une enquête.
Absolument, la procureure de Fontainebleau qui temporise un peu les propos du ministre de l'Intérieur. Une enquête a été ouverte pour destruction par incendie de bois ou encore de forêt, mais à cette heure, indique-t-elle, on ne peut pas affirmer qu'il y a eu une intervention humaine. En revanche, c'est là où elle rejoint un tout petit peu les propos de Laurent Nunez, il y a bien des éléments troublants sur les départs de feu qui pourraient laisser penser que peut-être le feu est d'origine volontaire. Vous le savez, Laurent Nunez a indiqué ce matin qu'il y avait une dizaine de points de départ de ces feux, tous situés dans un seul et même périmètre de 1000 mètres carrés. Deux de ces points de départ de feu sont situés de part et d'autre de l'autoroute A6. Mais voilà, les investigations débutent à peine. Ce sont désormais des gendarmes, des techniciens en identification criminelle qui ont sans nul doute déjà commencé les constatations sur le terrain pour tenter d'identifier ce qui a pu mettre, ce qui est en cause sur ces départs de feu. S'il y a des traces de combustible, de white spirit ou encore de carburant qui auraient pu provoquer cet incendie. Donc c'est un grand travail d'investigation qui a débuté sur le terrain pour tenter d'identifier l'origine, même s'il y a ces éléments troublants de l'aveu même de la procureure de Fontainebleau. Donc à savoir tous ces points de départ de feu, une dizaine situés dans un seul et même périmètre de 1000 m². On va rappeler qu'on est au bord de l'autoroute A6, donc
Est-ce un mégot qui a été jeté par un automobiliste imprudent ou bien un acte plus volontaire et pour tenter de mettre le feu à cette forêt de Fontainebleau et ce feu qui continue à se propager ce soir?
Surtout qu'un nouveau départ de feu a été constaté cet après-midi, donc ça continue. Le feu n'est toujours pas maîtrisé. Alors la question qu'on se pose également, c'est que risquent ceux qui volontairement mettent le feu à nos forêts? C'est avec vous, Nargis Hadji, qu'on va apporter des éléments de réponse. Alors comment la France sanctionne les auteurs des feux de forêt volontaires?
Eh bien, j'ai deux exemples à vous donner. Le tout premier, nous sommes en août 2022. Cela se passe dans le Jura. Et un ancien pompier volontaire déclenche volontairement un incendie. Plus de 230 hectares de forêt sont ravagés. Alors, il reconnaît les faits. Et le 18 mars 2025, il est condamné à 2 ans de prison avec sursis, une obligation de soins. Et il doit indemniser toutes les parties civiles. Le second exemple, eh bien, cette fois, se passe en 2015, en forêt, au sud du Mans. Là encore, c'est un ancien pompier volontaire. Il est reconnu coupable de 9 départs de feu qui ont détruit plusieurs dizaines d'hectares. Sa condamnation a lieu 1 an plus tard, en novembre 2016. Il est condamné à 18 mois de prison ferme. La peine maximale, s'il n'y a aucune personne qui est blessée ou tuée, est de 15 ans de réclusion criminelle et de 150 000 euros d'amende. Mais encore, faut-il retrouver ces personnes?
Merci Nargis. Alors justement, oui, une dernière question quand même, c'est comment les enquêteurs sur place arrivent à remonter le fil, à essayer de retrouver les auteurs? Ça ne doit pas être simple.
Non, c'est compliqué. Cela se passe en 3 étapes, que le feu soit volontaire ou non. Tout d'abord, l'étape numéro 1, il faut localiser le ou les points de départ et donc les enquêteurs remontent le chemin laissé par les flammes au sol depuis les airs, grâce aux drones notamment ou encore aux hélicoptères. L'étape 2, eh bien, lorsque la zone est balisée, il faut trouver un maximum d'indices matériels. Comment cela se passe? Eh bien, grâce à des témoignages, des traces laissées sur place, des chiens par exemple sont dressés pour sentir s'il y a des produits accélérateurs d'incendie, des huiles ou encore de l'essence. Et enfin, l'étape numéro 3, c'est le prélèvement. Un prélèvement qui est ensuite envoyé dans le laboratoire. En France, 9 incendies sur 10 sont d'origine humaine. Dans la majorité des cas, il s'agit d'imprudence, donc de mégots jetés, un barbecue, de travaux agricoles, mais 30% des départs de feu sont quand même liés à des activités malveillantes.
Merci Nargis. Commandant, ce matin, Laurent Nunez, qui était donc sur place à Fontainebleau, disait que l'objectif aujourd'hui, c'était de fixer ce feu. Il est 18h05, il n'est toujours pas fixé. Quelles sont les difficultés rencontrées là?
C'est toujours, en fait, finalement, c'est toujours la même chose dans ces feux qui sont un peu plus majeurs que ce qu'on peut connaître de manière habituelle. C'est que forcément, grand espace, difficulté d'accès, conditions astrométéorologiques qui sont un petit peu défavorables pour nos actions à nous. Et tout ça, c'est un petit cocktail qui va ralentir un peu nos actions et qui va, du coup, élargir un petit peu le temps d'efficacité, on va dire. C'est ce temps pour fixer, pour couper la propagation aux moyens d'action qui sont défensives. On a, et je le rappelle, nos pompiers français ont et nos sapeurs-sauveteurs aussi, hein, parce qu'on parle beaucoup des sapeurs-pompiers, mais aussi les sapeurs-sauveteurs, des unités militaires. On a dans une boîte aussi un certain nombre de moyens d'éteindre le feu, des fois même éteindre le feu par le feu, ou des fois on fait des parts du feu, etc. Peu importe. L'idée derrière tout ça, c'est de se dire que oui, on est sur une propagation qui est rapide, et dans ces conditions, des fois on a plus de mal et on prend plus de temps à couper sa propagation pour ensuite travailler sur les flammes.
900 personnes ont été évacuées, et puis on évacue également des centres équestres. Il y en a une bonne dizaine autour de cette forêt de Fontainebleau. Nous sommes avec Isor de la Gorce pour BFM TV, qui est du côté de Uri, où on évacue donc les bêtes.
Tout à fait, des évacuations en cascade dans les centres équestres parce que, vous le voyez, il y a ces panaches de fumée qui sont menaçants, notamment sur les centres équestres, mais également sur les champs où des propriétaires se mobilisent actuellement pour tenter de récupérer leurs chevaux. C'est votre cas, Marie, vous êtes rentrée plus tôt du travail pour récupérer votre jument.
Oui, c'est ça, je suis partie direct du travail quand ma sœur, elle m'a appelée pour me dire que fallait évacuer et je suis tout de suite arrivée et on les a mis dans le camion.
Bon, plus de peur que de mal, elle va pouvoir être sauvée. Est-ce que vous avez pu trouver un champ où la mettre?
Une amie, enfin une propriétaire dans le même pré a bien voulu gentiment la prendre à Chailly-en-Bière. Alors.
Et oui, parce qu'on sent qu'il y a beaucoup de mobilisation de la communauté équestre. Vous, notamment, vous avez proposé votre camion pour faire des déplacements des chevaux qui sont dans ce pré. Il y en avait une 20aine. Ils sont 7 maintenant. Il va falloir continuer à les évacuer. Comment ça va se passer?
Là, heureusement, on a encore des vents qui arrivent à compte-gouttes. Donc, on va peut-être...
Des vents, ce sont des véhicules pour transporter les chevaux. Oui, donc, qui arrivent.
Au maximum, oui. Qui arrivent au compte-gouttes. Donc, du coup, on va peut-être pouvoir arriver à tous les déplacer. La seule chose, c'est qu'il faut arriver à joindre les propriétaires. Malheureusement, qui qui ne donne pas de signe. Donc je pense qu'on va pas tarder quand même à la faire partir du pré quand même, pour ne pas qu'il y ait d'accident coûte que coûte, pour les sauver. Et puis après on se rangera avec le propriétaire des lieux pour dire où est-ce qu'ils sont, pour les sauver.
On prend en prévention les trois chevaux. On n'a pas pu contacter les propriétaires, mais il faut les sauver. Vous, est-ce que vous avez eu peur là pour votre jument? Les flammes, ou en tout cas la fumée, est vraiment pas très loin.
Oui, surtout quand on a appris que le grand parquet était de nouveau évacué. On est tout de suite arrivé. Vaut mieux pas prendre de risques quand on voit la fumée, ça fait peur, quoi.
Merci beaucoup. Effectivement, vous le disiez, le grand parquet qui a été évacué, c'est un centre équestre à Fontainebleau. 150 chevaux qui ont dû être évacués un peu dans la précipitation. On a évacué ces chevaux de cette zone sans forcément savoir où les mettre. Mais en tout cas, maintenant, ces 150 chevaux sont en sécurité.
Merci Isor, avec donc l'enjeu de l'évacuation des centres équestres. Trouvez aussi des places avec un feu qui n'est toujours pas fixé, qui a démarré hier après-midi. On va faire justement le point tout de suite depuis le PC qui s'est constitué à Noisy-sur-École, toujours en Seine-et-Marne, avec Théo Bassilena qui est sur place.
Oui, exactement. On sait un petit peu plus aussi sur les moyens en cours pour faire et tenter de circonscrire cet incendie. Il y a deux nouveaux canadaires qui devraient arriver ici dans les prochaines heures. On le sait qu'ils peuvent opérer jusqu'à la tombée de la nuit. Et pour en parler, on va en parler avec vous, monsieur Arnaud Saint-Martin. Vous êtes député donc de la première circonscription de Seine-et-Marne. Tout d'abord, quand on voit cet incendie, vous, quel est votre sentiment?
C'est un désastre, c'est une gestion de crise majeure comme on n'en avait jamais vu ici dans la forêt, une forêt à laquelle tout le monde est particulièrement attaché ici. Et moi, ce qui m'impressionne, c'est quand même la qualité du déploiement et la difficulté aussi de pouvoir gérer toutes ces forces qui confluent vers le poste de commandement et puis de tous les théâtres qui sont en cours d'activité. Donc il y a toute une logistique que moi, j'accompagne ici en échangeant avec les responsables de crise. Et moi, ce qui me frappe, c'est à la fois l'ampleur du désastre, Son caractère relativement incontrôlable avec les vents, la météorologie qui n'est pas du tout favorable. C'était relativement fixé par endroits, ça redémarre. En effet, les canadaires ont beaucoup aidé, mais est-ce que ça sera suffisant pour lutter contre le feu qui redémarre par ailleurs? Là, c'est à la fois l'ampleur du désastre et à quel point on savait que la forêt était extrêmement fragile. Et donc, on constate les ravages et franchement, on aurait pu anticiper davantage.
Là, on est au poste de commandement. Quel est votre objectif aussi de votre venue ici? Les téléspectateurs peuvent se le demander. Quel est votre objectif ici en venant au poste de commandement?
On attend de moi que je vienne, soyons clairs. Le député, c'est ma circonscription, ce sont des sapeurs-pompiers que j'ai l'habitude d'aller voir en permanence dans les casernes, etc. Là, je les vois en mode opérationnel, je vois d'ailleurs à quel point ils sont efficaces. Donc moi, c'est du soutien, c'est aussi de la discussion quand on réfléchit sur la façon de déployer de façon optimale, ce qu'on a fait ce matin d'ailleurs, sur les canadaires, sur dans quelle mesure ça allait permettre de lutter de façon plus ou moins efficace contre la propagation des feux. Donc moi, évidemment, un élu de terrain, il est sur les lieux des opérations.
Vous parlez d'un manque d'anticipation, qu'est-ce que vous demandez? Plus de moyens, justement?
Plus de moyens, plus d'anticipation capacitaire. Je l'ai vu ne serait-ce que pour les satellites, pour les télécommunications. Peut-être aussi des déploiements novateurs du point de vue du drone, qui pourraient emporter peut-être des volumes d'eau assez conséquents, téléopérés pour lutter de façon très paramétrique sur certains foyers et anticiper la propagation. En fait, c'est le genre de choses sur lesquelles on aurait pu largement anticiper sur le plan de la planification. Et par ailleurs, c'est aussi... on voit bien que les sapeurs-pompiers sont à l'os. Ça fait depuis des semaines qu'ils luttent. Ça brûle partout en Seine-et-Marne, on n'a jamais vu ça. Et là, c'est le moment de climax où toutes les forces sont concentrées sur une crise majeure. Et évidemment, ça aurait pu être largement anticipé. Et on sait qu'il y a une crise aussi dans l'institution. Évidemment qu'on est en soutien, donc c'est pas du tout le soir pour se lancer dans du diagnostic critique, etc. On verra plus tard. Mais en tout cas, moi, je suis là pour apporter mon soutien. Et c'est bien normal à tous ces sapeurs-pompiers extrêmement courageux qui confluent de partout pour nous aider à combattre ce feu.
Merci, monsieur le député, d'avoir été avec nous. Voilà, vous l'avez vu, avec des moyens forts, on l'a dit. Deux canadaires qui vont rejoindre deux autres canadaires déjà présents ici. Il y a également deux Dash et puis plusieurs hélicoptères bombardiers d'eau présents ici pour tenter de circonscrire cet incendie.
Merci Théo, avec des images de Louis Gagnepain. Donc on l'a bien compris, pour l'instant, rien n'est fait. C'est-à-dire qu'on n'a toujours pas fixé, on continue de combattre cet incendie. Malgré les moyens engagés, ça montre son intensité, sa violence.
Exactement. Les choses sont faites, mais malheureusement, et c'est pour ça qu'en feu de forêt, on dit toujours chez les pompiers qu'il faut être humble, c'est tellement volatile. Le feu peut changer de vitesse, les conditions astrométéorologiques vont évoluer. Ensuite, on alterne jour et nuit avec des capacités différentes, puisque nos moyens aériens ne peuvent pas travailler la nuit. Donc tout ça fait qu'on tente de fixer de la manière la plus optimisée qu'on peut faire avec des forces terrestres et aériennes, mais forcément sur un feu essentiellement entouré. Là, on est vraiment sur un grand, on est sur 25 000 hectares menacés, même si évidemment on va avec les actions qui sont faites en cours fixer dans les prochaines heures, voire demain, ce feu, on l'espère. Mais... on aura malgré tout...
Fixer, ça ne veut pas dire éteint, il faut le rappeler. Hein.
Exactement.
On commence par fixer le feu et ensuite on le maîtrise.
Exactement. On fixe le feu, ensuite on le maîtrise, on travaille sur ses flancs, on le fait baisser en intensité. Et puis ensuite, on travaille les points chauds, puisque ce n'est pas parce qu'on n'a plus de flammes qu'il n'y a pas de risque de reprise d'incendie. Et ça, malheureusement, c'est un petit peu ce qu'on redoute. Et c'est pour ça que pendant plusieurs jours après l'éclosion d'un incendie, son extinction, du moins c'est le fait qu'il soit fixé et maîtrisé, on doit le surveiller.
Mais tout à l'heure, enfin ce matin, Laurent Nunez disait que ce feu pourrait durer plusieurs jours.
Mais oui, il va durer plusieurs jours. Vous ne verrez peut-être pas forcément des flammes pendant plusieurs jours. Par contre, vous verrez des fumerolles, vous verrez des points chauds. En dessous de la végétation qui a été brûlée, il subsistera des points chauds fortement fumigènes et qui peuvent encore générer des reprises avec un pouvoir énergétique qui va provoquer justement peut-être une nouvelle éclosion d'incendie. C'est la mission de nos sapeurs-pompiers de continuer à le surveiller dans les jours qui vont suivre. Avec ces fameux drones, on parlait des drones, mais qui actuellement sont surtout utilisés pour de la reconnaissance et du relevé de points chauds, pour éviter d'avoir un nouvel incendie à l'issue du premier mais qui vient de...
Quand on dit plusieurs jours, c'est quoi? C'est 2, 5, 10 jours?
Jamais je ne pourrais vous donner un délai exact, puisque forcément, c'est le terrain qui commande et c'est vraiment les capacités. Et ça, c'est une science qui n'est maîtrisée par personne. C'est l'observation, c'est la surveillance qui nous permettra de répondre dans les prochains jours.
Gaël Musquet, tout à l'heure, le député du coin parlait peut-être de l'utilisation de drones pour larguer de l'eau. Est-ce que c'est des choses envisageables?
Alors, on n'y est pas encore pour le largage. En revanche, pour l'observation, pour détecter ces points chauds, pour suivre potentiellement des personnes qui n'ont rien à faire dans le massif ou qui ont des activités malveillantes, ça peut être utilisé. Au Japon, on utilise beaucoup ces drones pour pouvoir donner l'alerte aussi. Ce sont des drones équipés
de surveillance.
Exactement, de surveillance, d'alerte aussi, qui vont permettre d'aller au plus près en fait des personnes qui doivent être évacuées pour leur donner de manière audio des consignes. Ces moyens-là, c'est autant de moyens intéressants pour les forces. Et pour faire court, il y a aussi un versant de ces drones dont on ne parle pas. C'est très dangereux d'engager des drones civils non autorisés sur ces théâtres-là. On a toujours envie de faire de belles images, souvenirs.
Ça facilite le feu. Donc là, j'imagine qu'il y a plein de gens qui voudraient filmer.
C'est ça. S'il vous plaît,
au plus près.
N'engagez pas vos drones personnels sur ce théâtre ou à proximité du théâtre. C'est interdit, d'une part. Et d'autre part, les canadairs et les différents engins qui sont engagés peuvent toucher et être gravement endommagé par ces drones privés qui, malheureusement, mettraient la flotte au sol. Il y a rien de plus dangereux pour un Canadair ou un hélicoptère d'user ces machines. Donc, s'il vous plaît, restez prudents, ne perturbez pas avec ces drones de loisirs l'activité et le travail des forces de sécurité sur place qui, elles, engagent ces drones, mais pour des raisons que l'on peut imaginer d'efficacité, de surveillance et de conduite des opérations.
Alors, il n'y a pas qu'à Fontainebleau que ça brûle. Hein. Il y a du côté de Sens, dans l'Yonne, au nord du département, ce qui perturbe d'ailleurs le trafic TGV entre Paris et Lyon. Et puis on vient d'apprendre un important incendie de végétation vient de se déclarer à proximité du village de Condres. C'est en Lozère et le village est menacé car le feu se propage rapidement. Il évolue très très vite selon les sapeurs-pompiers qui sont sur place. La situation est défavorable. Le village de Condres est directement menacé par les flammes. À ce stade, 3 hectares ont déjà été parcourus par le feu et des centaines d'hectares sont directement menacés. Donc on le voit, c'est un peu partout en France qu'il y a ce risque incendie et que des feux se déclenchent plus ou moins importants.
Mais d'ailleurs, le ministre de l'Intérieur l'a dit hier. Juste hier, on avait plus de 250 feux, dont 30 qui étaient particulièrement intensifs. Ça montre la multiplicité du risque qui n'est plus uniquement localisé sur l'arc méditerranéen, mais bien maintenant sur la totalité du territoire. On est sur de nouveaux enjeux et tout l'intérêt de l'état-major de la sécurité civile, c'est de pouvoir prépositionner ses engins prépositionner ses moyens opérationnels à la fois terrestres et aériens pour justement subvenir aux différents besoins qui sont maintenant...
Et on a assez d'hommes et de femmes mobilisables parce que là, du côté de Combres, donc en Lozère, il y a 60 sapeurs-pompiers, 20 véhicules et un hélicoptère bombardier d'eau qui sont mobilisés.
Alors, au-delà même du nombre, oui, en effet, on a des renforts extrazonaux qui sont à même de pouvoir subvenir aux besoins. Je rappelle quand même que malgré tout, on a 23 avions patrimoniaux français de l'État. On peut totaliser plus de jusqu'à 60 aéronefs avec nos aéronefs loués. On peut avoir aussi un recours à l'Union européenne avec une coopération de sécurité civile qui se fait au quotidien, puisqu'on a eu, et au moment où je vous parle, deux hélicoptères Black Hawk qui viennent et qui travaillent sur DIE avec une capacité de largage de 3450 litres par minute. On a la capacité, mais l'idée, c'est encore une fois, de réfléchir à toujours avoir le coup d'après, prépositionner nos renforts, et surtout maintenant, et c'est une démarche qui a été faite depuis 2022, c'est former de plus en plus de pompiers à la lutte contre le feu de forêt. Parce que c'est une spécialité, il faut rester humble face à ce risque.
Alors regardons justement la météo, parce que ce risque incendie va perdurer hein, pour les prochains jours, voire les prochaines semaines. Le temps chaud et sec, même s'il y a des orages attendus, c'est ce que prévoit Météo France.
Oui, alors effectivement, on attend des orages en milieu de semaine qui pourraient faire baisser les températures, mais avant ça, on a quand même la journée de demain, celle de mercredi, situation encore caniculaire. Là, par exemple, à Paris, on attend entre 36 et 38 degrés pour demain. C'était déjà le cas aujourd'hui. Effectivement, la situation sur le front des incendies est encore très risquée. Pourquoi ? Parce que nous avons toujours ces rafales de vent jusqu'à 50 km/h. La bonne nouvelle, c'est que demain, elles pourraient baisser autour des 20-30 km/h. Mais en tout cas, les sols restent très secs. Je rappelle que sur la forêt de Fontainebleau, il n'a quasiment pas plu depuis 6 semaines.
Et donc, voilà, et le résultat, on l'a aujourd'hui. Avec, je disais, donc cet incendie également du côté de Sens, c'est dans l'Yonne, au nord du département, et ça perturbe le trafic ferroviaire pour la deuxième journée consécutive entre Paris et Lyon, les TGV. Nous sommes Gare de Lyon avec Magali Chalet, avec toujours donc ces trains qui connaissent beaucoup de retard.
Oui, de plus en plus de trains impactés avec des retards de plus en plus grands. Là, on en est à 4 heures de retard pour Genève, 2 heures de retard pour Montpellier, 1h50 pour Perpignan, 2 heures pour Annecy. Pour Lyon, c'est désormais un train qui est annulé. À midi, il faut savoir qu'il y avait déjà un train pour Lyon qui avait 3h10 de retard. Donc, c'est pas facile pour les voyageurs. À l'intérieur de la gare, il fait très très chaud et il y a de nombreux voyageurs assis par terre qui ont les yeux rivés sur les tableaux d'affichage. Beaucoup de familles également. Je vous propose de les écouter au micro de Lucille Martin.
Là, je suis arrivée il y a une demi-heure et j'ai vu qu'il y avait 50 minutes de retard, apparemment, pour des feux qui seraient passés dans une région. C'est bien plus grave finalement que l'attente qu'on a. Voilà, c'est ce qu'il faut se dire aussi.
Le nôtre est 50 minutes de retard pour le moment et on a deux filles avec nous qui partent sur le train d'après qui, lui, a été supprimé. On peut reprendre un billet, c'est 300 euros de plus pour être classé dans le même train que nous plus tôt. Donc, pour le moment, on cherche une solution.
À l'origine de tous ces retards, il y a un feu qui a pris à Sens, dans l'Yonne. Du coup, la circulation a été coupée dans les deux sens. Les TGV doivent désormais emprunter l'itinéraire classique, c'est-à-dire celui des TER en direction de Verginie. Et du coup, les trains circulent beaucoup, beaucoup plus lentement, d'où tous ces retards.
Merci Magali Chalet avec Lucille Martin. Patience donc si vous devez prendre un train, ça fait quand même 2 jours de suite que Gare de Lyon, c'est le chaos. Hein.
Oui, tout à fait.
À chaque fois que des incendies différents, il y a celui de Fontainebleau hier et puis là maintenant celui de Sens.
Celui de Sens, c'est ce qu'on appelle les effets dominos. Vous avez un incident à un endroit qui va impacter le réseau électrique, les réseaux de télécommunications, les réseaux de transport. Et donc c'est face à tout ça en fait que notre pays et la planète doit s'organiser, c'est-à-dire arriver à s'adapter face à ces événements qui sont extrêmes et en même temps atténuer les émissions de gaz à effet de serre pour éviter que ces événements ne se reproduisent, ne soient plus violents, plus fréquents à l'avenir. Donc là, on a vraiment donc même d'un point de vue économique, que ce soit avec la Cour des comptes qui le dit sur le financement des dispositifs d'urgence, sur l'hébergement, sur la capacité de se protéger, d'accompagner aussi les différents gestionnaires d'infrastructures. Vous savez, là pour l'instant on parle du ferré et du routier. Les températures que l'on est en train de vivre perturbent aussi les opérations de secours. Quand il fait chaud à ce point-là, évidemment pour les hommes, mais aussi pour les machines. Les conditions techniques d'emploi de ces machines, que des camions jusqu'aux avions, même s'ils sont modernisés, même s'ils sont de plus en plus puissants, même s'ils sont de plus en plus adaptés, Un avion, un hélicoptère a du mal à voler à 45 degrés par rapport à 35 ou à 25 degrés parce que l'air est plus léger. Donc, ça demande des moteurs de plus en plus puissants, ça demande des pistes qui doivent être aussi adaptées. On peut pas décoller et atterrir n'importe où avec des longueurs de pistes qui doivent être adaptées aussi en fonction de la température. Donc, faut imaginer tout ce que cela a comme conséquence sur les infrastructures, sur la capacité humainement, financièrement, techniquement et aussi mentalement. Faut tenir dans le temps, faut tenir dans la durée, accompagner au maximum les populations, les élus qui sont aussi sur le terrain. On l'a vu là sur un député, mais les maires sont en première ligne. On a des images, on a des archives des précédentes années, voir à quel point ces maires sont durement éprouvés quand ces drames surviennent sur leur commune. Donc, ce sont aussi des personnes qu'il faut accompagner dans le temps, dans la durée, pour qu'ils puissent effectuer leur mandat de la manière la plus facile possible.
Alors, il faut évacuer les chevaux, on l'a dit, et on l'a vu tout à l'heure, avec ces centres équestres, une bonne dizaine, qui sont en cours d'évacuation, qui ont déjà été évacués. Puis, il y a aussi des chiens à évacuer. C'est ce que constate Élise Philips, qui est toujours du côté d'Uri, en Seine-et-Marne.
Exactement, on est dans un centre en fait où il y a des chevaux qui ont été évacués tout à l'heure et puis 90 chiens qu'il faut aussi emmener ailleurs. Valentine Rib est peut-être en train de vous en montrer deux d'entre eux qui sont encore dans leur cage pour l'instant, mais ils vont être évacués sous peu. On voit depuis tout à l'heure les propriétaires du centre et puis des volontaires qui sont venus aussi courir un petit peu partout pour évacuer tous ces animaux le plus rapidement possible. En fait, ce sont les gendarmes qui sont venus tout à l'heure avertir les propriétaires qu'il fallait partir. On est avec Ophélie justement, racontez-nous un petit peu comment s'est passée cette évacuation. On sent qu'il y a un petit peu de, pas de panique, mais d'agitation.
Ouais, exactement. Alors oui, c'est sûr. Donc nous, on a déjà évacué les chevaux là avant d'évacuer les chiens. Donc ils sont tous partis, ils sont tous en lieu sûr. Et donc là, on évacue les chiens. Voilà, il y a une vraie entraide. Donc c'est très beau à voir. Les gens n'hésitent pas à venir nous aider, des gens qui ne connaissent pas forcément les chiens. Et ça fait vraiment chaud au cœur. Donc là, on arrive sur la fin de l'évacuation des chiens. Ils sont en train d'être dispatchés, donc c'est plutôt rassurant. Voilà, c'est par précaution, mais il vaut mieux anticiper. On est avec des animaux qui peuvent vite stresser, ça peut venir vite compliqué s'ils sont en stress de gérer les animaux en plus des humains.
Et alors justement, on les entend un petit peu aboyer, on imagine qu'ils ressentent aussi ce stress. Comment vous gérez ça ?
Oui, bah on essaie de les rassurer, on leur parle beaucoup, c'est beaucoup avec tendresse. Après, il faut quand même faire ça un petit peu rapidement parce qu'il y a beaucoup de chiens. Donc l'idée, c'est de les mettre dans les cages, dans les voitures, qu'ils soient escortés pour justement après pouvoir baisser la tension.
C'est une situation qui vous inquiète? On voit le nuage de fumée assez important derrière nous.
Non, pas spécialement. C'est vraiment de la précaution, histoire d'anticiper, pour éviter justement d'être dans la panique ensuite. Donc oui, on ne sait pas jusqu'où ça va aller, forcément. C'est toujours un peu stressant. On est avec des animaux vivants, on ne maîtrise pas. Et on sait que les forces de l'ordre et les pompiers font leur maximum. Mais il y a tellement à faire que là, même eux sont dépassés, je pense. Donc c'est un peu stressant, mais avant tout, on gère le stress.
Merci beaucoup, Ophélie. Bon courage pour la fin de cette évacuation. Et on peut peut-être l'apercevoir juste en face de nous, ce ciel qui est assez brouillé, assez gris. En fait, il y a un épais nuage de fumée qui est juste devant nous, qu'on voit très clairement depuis tout à l'heure. C'est ça qui inquiète les propriétaires ici, toutes ces personnes. C'est ça qui inquiète aussi les gendarmes. C'est pour ça qu'ils ont ordonné l'évacuation, parce que eh bien, ce feu qui sévit dans la forêt de Fontainebleau est juste derrière. Il faut absolument éviter qu'il arrive ici et qu'il mette en danger les animaux, mais aussi évidemment les personnes.
Merci Élise, avec Valentine Rib pour ces images et ces animaux qu'il faut évacuer. Donc les chevaux, les chiens, une vraie ménagerie.
Exactement, dans nos priorités, la commande des portions de secours, il a des priorités, c'est d'abord les personnes et les animaux. Ensuite, c'est les biens, l'environnement. On est prêt à sacrifier des maisons pour protéger des personnes et des animaux. Et les animaux, la particularité, c'est qu'ils sont parfois un peu moins disciplinés que les hommes. Et du coup, c'est un réel enjeu. C'est pour ça qu'on anticipe, pour pouvoir justement
les... surtout trouver de la place, parce qu'on les met où tous ces chiens.
Mais c'est exactement la même chose que pour finalement l'humain, si je puis me permettre. Finalement, c'est trouver des espaces. Et les communes ont maintenant ce réflexe et mettent en œuvre des plans communaux pour justement absorber cet important flux d'évacuation.
Ce que disait cette propriétaire de chiens, c'est que bon, elle n'était pas stressée parce que les flammes étaient encore loin. Donc on prend son temps pour le faire, pour justement que ce ne soit pas dans la panique.
Exactement.
Qu'on puisse organiser les choses.
Une évacuation, elle doit factuellement se faire toujours par anticipation, jamais à la dernière minute. Sinon, ça provoque un mouvement de panique. Et quand on panique, on perd ses moyens. Quand on perd ses moyens, on fait des bêtises. Du coup, l'idée, c'est toujours de le faire de manière suffisamment en avance pour pouvoir le faire dans la sécurité, dans le calme et en permettant d'avoir toujours un coup d'avance sur le sinistre qui peut potentiellement progresser.
Il y a aussi des animaux qui vivent dans cette forêt. Oui. Parce que on l'a dit, c'est le poumon vert de l'Île-de-France, la forêt de Fontainebleau. C'est aussi un espace de biodiversité très important. Là, malheureusement, tous ces animaux, on ne va pas pouvoir les évacuer et ce seront les premières victimes de ces flammes.
Tout à fait. On ne pourra pas évacuer les lézards, les insectes, les batraciens, qui sont les victimes moins spectaculaires de ce feu, mais qui n'en demeurent pas moins. Permettre à ces écosystèmes d'être équilibrés et de pouvoir se régénérer. Donc, faut aussi mesurer les coûts qu'ont ces feux sur la biodiversité. D'où l'importance, effectivement, là, de travailler avec différents offices qui ont été malmenés. Faut aussi le dire, ONF, OFB, donc l'Office français pour la biodiversité. Ce sont des agences parfois qui ont été victimes d'attaques violentes, d'attentats même parfois. On peut le dire sur des mouvements climato-sceptiques. Et donc là, si vous voulez, ce sont les fonctionnaires qui aujourd'hui vont devoir hanter et ensuite après ce feu faire des diagnostics, proposer des plans de réintroduction des espèces pour pouvoir permettre à ces écosystèmes de renaître et de pouvoir permettre à cette forêt de repousser le plus vite possible.
Faut préciser que c'est une forêt publique, gérée par l'Office national des forêts. Alors, on remonte dans les archives pour essayer de comprendre si c'est le pire incendie. Alors, a priori, c'est le pire incendie jamais enregistré. C'est ce que dit une responsable du service environnement de l'ONF qui dit que, alors, il y a eu un incendie en 1921 qui avait détruit 762 hectares et en 1945, juste après la guerre, 825 hectares. Donc, on bat ce record avec plus de 1000 hectares, c'est ça, à peu près?
Oui, c'est ça. On a dépassé malheureusement.
Et ce n'est pas fini, malheureusement, puisque le feu n'est toujours pas fixé.
Exactement. Après, on espère quand même malgré tout qu'il soit fixé dans les prochaines heures. Mais bien évidemment, on reste prudent sur cette donnée-là parce que le terrain commande et on peut avoir des difficultés pour éteindre ce feu.
On va refaire un point complet dans un instant, mais en précisant que les canadaires vont arriver. Il y a deux canadaires qui arrivent.
Il y a déjà deux canadaires sur zone, deux autres qui montent, du coup vers le nord, ce qui est un peu paradoxal.
Bien, confirmation avec Théo Bassilana qui est sur place au PC de Noisy-sur-École en Seine-et-Marne. Théo, donc c'est deux canadaires qui arrivent.
Exactement, et ces deux canadaires vont renforcer un dispositif déjà conséquent. Il y avait déjà deux canadaires mobilisés ici, deux Dash également, et trois hélicoptères bombardiers d'eau. On le rappelle, pourquoi il y a des moyens supplémentaires? Et bien parce qu'il y a plus de 1000 hectares de terre qui ont déjà été brûlés ici dans ce secteur, et ce déploiement conséquent devrait s'avérer d'autant plus utile qu'un nouveau départ de feu a été identifié cet après-midi, donc dans le secteur de la Faisanderie, donc à proximité de la ville de Fontainebleau. Ce nouveau départ de feu, il faut le comprendre, contraint les 800 pompiers qui se relaient depuis hier soir à engager moins de moyens sur le premier incendie afin de circonscrire au plus vite le second. Dans un point presse tout à l'heure, le préfet ici annonce que l'incendie donc mobilise plus de 800 sapeurs-pompiers, dont 200 qui proviennent de toutes les régions, d'autres régions en France. Et le ministre de l'Intérieur avait déclaré ce matin, eh bien, il était un petit peu plus optimiste que le feu devrait être fixé en fin de journée. Eh bien, finalement, le préfet était beaucoup plus pessimiste. Il se dit beaucoup plus prudent puisque la situation est un petit peu compliquée. On le rappelle, un taux d'humidité extrêmement faible, une température toujours aussi haute et puis des rafales de vent ici qui atteignent les 50 km/h.
Merci avec Gaëtan Malaquin pour les images, Théo qui est sur place pour BFM TV. On va faire un point justement et on va regarder déjà tout d'abord ces images toujours spectaculaires. C'est la première fois qu'on voit des canadaires comme ça écopés dans la Seine. C'est depuis ce matin, avant de larguer des tonnes de litres d'eau toutes les deux minutes sur la forêt. Ça va très vite, Gaël. Et vous, commandant, on commente ensemble ces images.
C'est une prouesse aéronautique et je tiens vraiment à rappeler et passer rendre hommage à ces pilotes parce que c'est en général des pilotes qui sont vraiment passionnés par l'aéronautique, qui ont quitté l'armée en général, soit l'aviation de chasse ou l'aviation civile, et qui veulent continuer à travailler un peu avec une technicité.
C'est étroit quand même sur la Seine.
L'écopage, c'est étroit, forcément ça nécessite une vraie technicité. Ils volent aussi en patrouille, donc on n'est pas sur du vol commercial. Tout ça, c'est une technicité, une expertise propre à cette aviation française et à ces pilotes. Et là, ce travail d'écopage, il vient finalement remplir des soutes pour 6 000 litres pour pouvoir justement à nouveau larguer largué sur un lieu qui sera désigné par le commandant des opérations de secours via son chef de secteur.
Mais ces pilotes se sont déjà entraînés sur la Seine ?
Alors, ils s'entraînent sur énormément de plans d'eau. Et d'ailleurs, pour vous dire, dès le mois d'avril ou mai, ils font une espèce de travail de mise en condition opérationnelle et ils viennent travailler sur différents plans d'eau qui sont d'ores et déjà localisés sur l'échelle nationale pour pouvoir justement refaire de la reconnaissance. Chaque plan d'eau a une technicité. Il faut pouvoir écoper avec une vitesse bien adaptée. Et tout ça nécessite forcément un entraînement de longue haleine et qui se fait dès le début de l'année.
Et alors, ils peuvent passer combien de fois là ? Parce que là, c'est depuis ce matin.
Bah, tout dépendra de l'autonomie de l'avion, parce qu'il faudra à un moment donné qu'il puisse se régénérer.
Se ravitailler.
Se ravitailler, exactement. Mais l'idée, c'est qu'il peut le faire de manière assez multiple. Et l'idée de manœuvre, c'est surtout de pouvoir être une vraie ressource pour le commandant des opérations de secours.
Alors, il y a les Canadair, ces bombardiers d'eau, et puis aussi des hélicoptères qui sont mobilisés.
Alors, ce que vous voyez, bien dissocié. Là, ce que vous voyez, cet hélicoptère avec le liseré rouge, c'est un hélicoptère de la sécurité civile. Hein, c'est un EC-145. Lui, il est là surtout pour localiser, donner un angle de vue au Canadair pour bien confirmer l'endroit où le Canadair va larguer. D'ailleurs, en général, vous avez un officier de sapeur-pompier qui est un officier aéronautique, un officier aéro, comme on les appelle chez nous, et qui vont indiquer vraiment le lieu de largage. Ensuite, vous avez en effet les hélicoptères bombardiers d'eau avec différentes capacités hein, qui traînent, on appelle ça un bambi bucket, hein, c'est une poche d'eau. On peut avoir une capacité de 800 litres, on peut en avoir aussi de 1000 litres. Et on a actuellement en France deux Black Hawk, c'est des anciens hélicoptères de l'US Army qui ont été rachetés par la République tchèque et qui, eux, peuvent larguer jusqu'à 3450 litres.
Mais ils n'ont pas la même fonction, le Canadair, l'hélicoptère?
Ah non, en fait, chaque moyen, et c'est pour ça qu'on est souvent sur un tunnel de parler des Canadair pour la lutte feu de forêt, chaque moyen a une capacité, une utilisation spécifique. Sinon, on n'achèterait que des Canadair ou on n'achèterait que des hélicoptères.
Je crois que c'est assez français de l'utilisation justement de ces moyens différents. Ce n'est pas toujours le cas dans d'autres
Exactement.
Pays.
Exactement. On a, nous, une méthode propre à nous. Déjà, c'est l'attaque massive des feux naissants. C'est une utilisation d'une boîte outil qui est
assez... Notre stratégie, c'est d'intervenir dès que le feu démarre.
Le plus précocement.
Ce n'est pas toujours le cas dans les autres pays.
Non. Et d'ailleurs, en fait, aux
États-Unis.
Si on vient comparer avec les capacités aéronautiques de certains pays voisins, on a finalement des surfaces brûlées qui sont légèrement réduites par rapport à ce que peuvent connaître nos voisins.
Et pourquoi on a des stratégies différentes
Parce qu'on s'est adapté à notre terrain, à notre capacité, à notre force de frappe. Et c'est ce qui nous a permis de faire travailler, comme vous le voyez là, hein, un Dash qui va certainement poser une période de retardant. On réfléchit à la 400M, par exemple. La 400M, c'est un vrai sujet. Il a été annoncé il y a quelques jours. On est en train de travailler justement avec Airbus, le ministère des Armées, notamment l'armée de l'air et de l'espace.
Alors là, ça c'est les fameux...
Ça, c'est les Dash. Hein.
Voilà,
ça, c'est
les Dash qui interviennent.
Donc là,
ce produit...
Le retardant.
Voilà, le retardant.
Qui est un liquide reconnaissable par sa couleur rouge hein, et sa viscosité, ouais. Et qui va permettre de poser une couche sur la surface de la végétation avec un objectif cible, c'est le ralentissement de la propagation du feu. Parce que le feu va avoir du mal à enflammer ces végétaux-là et du coup, on va pouvoir gentiment couper la propagation. Et puis finalement, vous avez aussi attaqué le feu par le feu. On a aussi des détachements de feu tactique. Ce sont des pompiers qui mettent le feu,
ah oui,
paradoxalement, mais ce ne sont pas des pyromanes. Ce sont des pompiers qui ont une connaissance fine du terrain et qui vont utiliser ce feu pour brûler certaines zones végétales, justement pour permettre au feu de ne plus brûler, puisque le feu ne brûlera jamais ce qui est déjà brûlé, en fait.
D'accord. Alors, pendant qu'on parle, malheureusement, un nouveau feu de végétation est déclaré à proximité de la commune de Lombron, c'est dans la Sarthe. L'intervention mobilise actuellement entre 60 et 70 sapeurs-pompiers, appuyés par 17 engins. Et la principale préoccupation des secours, eh bien, c'est la ligne SNCF qui est située à proximité de la zone d'incendie, sachant qu'il y a toujours cet incendie dans le nord de Lyon, à Sens, qui perturbe le trafic en ce moment entre Paris et Lyon, le trafic TGV, avec parfois des retards allant jusqu'à 2 heures, voire 3 heures pour certaines destinations. Et puis, je rappelle également cet incendie qui s'est déclaré du côté de la Lozère. Et c'est un village, le village de Combres, qui est menacé directement par les flammes. Là aussi, mobilisation sur place des sapeurs-pompiers, à 60 sapeurs-pompiers, 20 véhicules et un hélicoptère bombardier d'eau mobilisé. Voilà, on voit bien que c'est un peu partout, Anthony, que ce risque incendie est là et que ces feux se déclarent. Et que disent les prévisions météo concernant notamment la chaleur et puis surtout le vent et peut-être même des orages? Alors les orages, c'est peut-être une bonne chose parce que ça, si l'eau tombe, ça va aider.
Alors, on a toujours les deux tiers du pays qui sont en vigilance, en alerte orange concernant ce risque incendie, du sud juste au nord, parce que la quasi-totalité, effectivement, du territoire connaît une sécheresse très intense. Une sécheresse qui est donc aggravée par la troisième canicule qui va se poursuivre, Olivier, au moins jusqu'à jeudi. À partir de vendredi, on attend vraiment une baisse significative des températures.
On bascule vendredi, en fait.
On va vraiment basculer vendredi, sauf sur le pourtour méditerranéen où on gardera vraiment encore une chaleur significative pour les prochains jours. Mais sinon, sur la quasi-totalité du territoire, à partir de vendredi, vraiment, ça ira mieux du côté des températures. Malheureusement, vous le savez, pour le feu, il y a d'autres aspects à surveiller, notamment le vent. Et là, le vent, eh bien, il va se maintenir à la fois sur le secteur nord du pays, donc notamment en Île-de-France, encore demain, même s'il faiblira légèrement. Il va également se maintenir sur le pourtour méditerranéen, notamment sur la Drôme, où on a d'ailleurs un incendie à Dié, dont vous connaissez d'ailleurs l'existence, qui n'est toujours pas malheureusement éteint, car nous avons toujours effectivement ce Mistral qui soufflait une cinquantaine de kilomètres par heure. Et enfin, vous l'avez dit effectivement, les orages qui arrivent. Alors j'ai regardé effectivement sur les radars, on attend justement des orages au niveau de la région de Fontainebleau vers 21h45, 22h. Alors de un, ce n'est pas certain qu'ils éclatent. De deux, s'ils éclatent, ce n'est pas non plus forcément une bonne nouvelle, car les orages vont faire régner au niveau de l'atmosphère des vents tourbillonnants, des conditions parfois difficiles, et par conséquent, les moyens aériens pourraient être paralysés effectivement par ces phénomènes orageux. C'est ce qui s'est d'ailleurs produit ce matin à Cap Fréhel. On attendait deux avions bombardiers d'eau. Ils n'ont malheureusement pas pu intervenir à cause malheureusement des orages.
Je le rappelle, donc ce nouvel incendie dans la commune de Lombron dans la Sarthe. Il y en a toujours un qui est en cours du côté de la Lozère. Et on regarde toujours ce balai des canadaires, toujours impressionnant, avec ces canadaires qui écopent la Seine. Et justement, nous sommes avec un ancien pilote de Canadair, Christophe Gouvillot. Bonsoir, quelques minutes ensemble, parce que ce qui est impressionnant, c'est voir ces Canadair qui écopent l'eau de la Seine. On n'avait jamais vu ça, en exercice sans doute, mais dans la réalité, avec cet incendie qu'il faut maîtriser. Quel est votre regard, vous, l'ancien pilote ?
Mais effectivement, c'est plutôt un endroit où on a l'habitude de venir s'exercer. Donc en fait, on se préparait à cette éventualité, à venir intervenir dans le nord de la France. C'est pas quelque chose de nouveau dans le sens où on l'a anticipé. On parle depuis très longtemps de réchauffement climatique. On parle depuis très longtemps de problèmes qui remontent dans le nord de la France. Donc nous, on s'entraîne, on a répertorié des plans d'eau qui nous permettent d'intervenir justement à proximité de Paris, dans l'ouest de la France, dans les Vosges, etc. Donc on a des plans d'eau, on a prévu des solutions de façon à pouvoir être le plus disponible possible.
Alors on vous voit intervenir souvent dans la mer. Quelles sont les contraintes lorsqu'il s'agit d'un fleuve ?
Alors, quand il s'agit d'un fleuve, les contraintes sont exactement les mêmes que dans la mer, si ce n'est qu'il y a parfois de la navigation fluviale. Il faut donc éviter les bateaux qui descendent, les grosses péniches qui ne peuvent pas manœuvrer. Donc là, on fait une première reconnaissance au-dessus du fleuve, un premier passage sur l'axe qu'on a décidé comme étant l'axe d'écopage. Ça permet aux plaisanciers de savoir qu'on va venir écoper dans cette zone. Et une fois que ce premier passage est fait, on fait un demi-tour et on se représente. Et tous les avions écopent sur le même axe que celui qu'on vient de survoler, en fait.
Et combien de rotations possibles ? Parce que là, c'est depuis ce matin qu'on voit ces Canadair agir, intervenir, avec des images là, en ce moment en direct d'un Canadair en action.
Et ben, en fait, on est limité, à cause de la fatigue, à 60 écopages et largages par jour. C'est énorme, hein, 60 écopages, on ne se rend pas bien compte, parce que le Canadair se pilote à la main, il n'y a pas de pilote automatique, il n'y a pas beaucoup d'assistance, donc c'est vraiment des efforts physiques soutenus pour les pilotes qui sont aux commandes de ces avions. Donc cette limitation de 60 écopages est vraiment nécessaire et elle est également applicable aux Dash, mais qui la rencontrent moins souvent. Eux, ils sont plutôt frappés par des limites d'heures de vol et là, c'est 8 heures de vol maximum pour les pilotes qui sont engagés sur les différents feux.
Voilà, ces images assez extraordinaires que nous vivons en direct, signé Nils Olsen pour BFM TV. Christophe Gouvillot, quelle a été votre formation ? On dit souvent que ce sont des anciens pilotes militaires qui pilotent ces Canadair. C'est votre cas ?
C'est bien ça. Oui, c'est bien ça, oui. Pratiquement 100% des pilotes de la sécurité civile sont des anciens militaires. Et on commence à former les premiers pilotes civils qui ont eu donc une formation de copilote et qui ont pratiquement 15 à 20 ans d'ancienneté à la sécurité civile et qui passent en place gauche, soit sur Canadair, soit sur Dash 8. Mais la plupart du temps, c'est des anciens pilotes de chasse qui sont assez aguerris, ou pilotes de transport, pardon, qui sont assez aguerris au vol en très basse altitude, puisqu'en fait, on se promène environ à 30, entre 30 et 20 mètres du sol lorsqu'on effectue le largage. Donc, c'est une certaine dextérité à avoir. Et il faut l'avoir eu avant. On ne peut pas se permettre de former les gens à ça. Il faut que cette dextérité soit déjà apprise. et acquise avant de se former uniquement aux feux de forêt.